This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedy ad free. That's amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois deux humoristes qui me font beaucoup rire. Je reçois Lola Destienne et Oriane Garcia. Comment allez-vous ?
Très bien pour ma part. Ça va super, un tout petit peu fatigué et la voix éraillée. J'ai l'impression d'être une roqueuse, mais ça va.
Ça va, moi je trouve que ça va la voix.
C'est gentil. Ouais.
Alors, je ne vous ai pas prévenu, mais je vais vous demander, est-ce que vous pourriez vous présenter l'un l'autre ? Donc, est-ce que Lola, tu pourrais présenter Oriane, quel type d'humoriste elle est, comment elle est avant une scène, sur une scène, son genre d'humour, ce qu'elle fait, de quoi elle parle?
Bah, Oriane Garcia, je dirais, elle dit tout ce qu'on pense pas forcément tout bas, mais ouais, enfin, pour reprendre ces mots, c'est une hypersensible agressive. Elle est sur scène, en dehors de la scène, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'elle y va jamais par quatre chemins pour te faire des retours sur une scène ou te dire ne va pas là ou va là, fais ça, machin. Je t'ai connue très vite en fait quand j'ai commencé stand-up. La première fois que j'ai fait une scène avec toi où t'étais MC, tu m'as présenté comme. Je sais plus si j'étais ta petite sœur ou ta grande sœur, et puis après tu t'es rendu compte que en fait j'étais plus âgée que toi. Et non, je trouve que c'est quelqu'un aussi qui est très, très bienveillant, très drôle, qui arrive à vraiment façonner son humour d'une manière où elle sait jouer avec les silences, elle sait mettre de l'émotion là où il en faut, et puis après faire une grosse rupture d'un coup. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et c'est une bosseuse aussi. Y a rien à dire.
Nice.
Waouh!
Maintenant tu vas m'insulter.
Lola Destienne, pas grand chose à dire. Hein, pas grand chose à. Non. Non, c'est vrai que. Lola, moi, c'est vrai que. Ouais, du coup, ouais, je l'ai rencontrée à ses premières scènes et j'ai eu l'honneur, on va dire, d'être la MC sur une de ses premières scènes. J'ai envie de dire que c'est un peu peut-être. Une petite Oriane Garcia. Dans ses débuts, en tout cas, c'était une petite Oriane Garcia dans le sens où elle était. Nos premières scènes se sont. Très fort ressemblé, je pense. Du coup, ça me permet de voir que Lola, c'est quelqu'un qui adore le stand-up, qui adore raconter des blagues, qui adore faire rire les gens, mais qui a quand même un petit peu ce truc de elle à elle, on va dire, de problème de confiance ou d'être à l'aise. Ou c'est pas, sans vouloir être méchante, en effet, c'est pas du tout être méchante, parce que je comprends tout à fait. Moi, j'adore aussi faire rire les gens, et c'est pas pour autant que t'aimes bien faire rire les gens et du coup que t'es à l'aise d'être devant 100 personnes pour les faire rire. C'est quand même ces deux dimensions différentes. C'est très paradoxal dans un certain sens, mais Lola, c'est quelqu'un où on sent qu'elle a vraiment très très envie de faire rire les gens, et la preuve, elle rigole aussi souvent de ses propres blagues sur scène. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très bon, de ne pas se prendre au sérieux sur scène et en fait apprécier ce qu'on dit. Et c'est là qu'on voit qu'elle est fière de ses blagues, parce qu'elle rigole elle-même de ses blagues quand le public rigole aussi. Et c'est ça qui fait que ses sketchs sont très bons.
Ok, nice. Ah, on aura le bruit du chat.
C'est très bien.
Donc on a un chat, il y a un avion qui est passé juste avant, je sais pas si vous l'avez aussi, mais on verra. Mais moi je suis content de vous avoir toutes les deux, en plus je trouve que vous avez plein de points communs, j'en ai trouvé plein en faisant l'épisode, on va les voir au fur et à mesure. Wow. Mais il y a un truc que je trouve, c'est que vous êtes vraiment tous les deux bosseuses, parce qu'à chaque fois que je vous ai vu avec un sketch différent. Alors que souvent on a l'habitude de voir les gens qui rodent des trucs pendant 5 ans. Et je vous ai vu à chaque fois tester des nouvelles choses et un petit peu de jalousie là-dessus, de très confiante dans le test. Genre moi je sais que quand je fais un test, je suis pas bien quoi. Et que vous testez pas mal de choses et je trouve ça assez cool. Je trouve qu'un point commun que vous avez, c'est ça de bosser et de tester. Donc je me suis dit, on va peut-être les inviter ensemble, ça va être chouette. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Est-ce que vous consommez des podcasts ?
Oui, beaucoup. Moi, j'ai un peu plus de mal, en fait, le fait d'écouter des gens. En fait, j'aime bien le visuel, les clips aussi, j'adore les musiques, j'adore aller regarder les clips, quoi. Je suis une grande fan, moi, de visuel en plus de l'audio. Donc, c'est vrai que moi, le podcast sur Spotify, ou en tout cas, il n'y a que l'audio, j'ai un peu plus de mal, mais j'aime bien ce principe de gens qui parlent ensemble et tout ça, surtout quand c'est un sujet qui m'intéresse. J'en ai déjà écouté. J'ai tendance à plus en regarder des podcasts qu'en en écouter juste. On peut pas dire que je suis une grande... comment est-ce qu'on dit ça? Écoutatrice une grande,
Auditrice,
c'est ça.
Auditrice.
Ouais, pardon, le français est pas ma langue maternelle. C'est faux. C'est totalement ma langue.
Rien Moi, je consomme énormément de podcasts. J'en ai fait avant que ce soit cool. Mais non. Mais moi, je pense que ça vient de beaucoup de choses et ça se lie à l'humour aussi. Quand j'étais petite, j'écoutais à fond toutes les sagas audio, les CKMP3, Nulb, Cadoprix Toxis, Reflet d'acide, le sang. mais tous les trucs avec mes frères, on écoutait ça le soir. C'est plein de sagas MP3 qui sont très drôles. Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs qui ont mal vieilli et peut-être que la moi d'aujourd'hui rigolerait moins. Mais ça m'a vraiment éduquée. J'écoutais à fond la radio. C'est un peu un truc. Aujourd'hui, j'adore les sujets. Le podcast style Binge Audio, le Floatcast, bien sûr, comme à peu près les trois quarts des humoristes de ce monde.
Rien ne sait pas du tout de quoi on parle.
Non, pas du tout. Ouais. Là, juste avant que vous arriviez, vu qu'on est chez moi, avec mon chat et mes avions, j'écoutais Programme B. Je trouve que j'ai tendance à avoir du mal à me concentrer sur une seule chose à la fois. Donc j'ai toujours besoin d'un fond sonore ou d'un truc pour occuper mon trouble de l'attention, on va dire. Et même au taf, je passe ma vie à écouter des podcasts et à être en recherche. Et j'en ai fait deux dans ma vie. Un qui s'appelait Internet te veut du bien, quand j'étais aux études, qui parlait des actualités du web et des choses comme ça, quand j'étais à Saint-Louis. La brève année que j'ai passée à Saint-Louis, où j'ai fait plus de podcasts et d'impro théâtral que d'études. Et un autre qui s'appelait... qui a un projet un peu en gestation, je pense, parce que j'aimerais bien le relancer un moment, mais qui s'appelle Terrible Vingtaine, et c'était un peu un mode d'emploi et un recueil de témoignages autour de toutes les premières fois de la vingtaine, qui partait du principe de, en fait, l'âge adulte, personne n'ose le dire, mais personne n'a aucune idée de ce qu'il ou elle fait, et donc autant aborder toutes les premières fois de la vingtaine, du style, le premier épisode c'était travailler pour manger, donc avoir son premier taf alimentaire, le deuxième c'était baiser sans penser, genre la première fois que tu fais l'amour sans te poser de questions, et des choses comme ça, et on aimerait bien relancer le projet parce qu'on est plusieurs dessus, et un jour, quand j'aurai 36 heures dans une journée, j'arriverai à le faire, mais voilà, j'aime beaucoup beaucoup le podcast, et j'aime beaucoup le podcast de Régis Canon
Humoriste.
Humoriste.
Ça voulait pas sortir. Il est pas vraiment humoriste.
Il est possible que ce soit dû à des problèmes de diction que j'ai arrêté le podcast. Mais ouais.
Ah, mais merci beaucoup d'écouter le podcast. Du coup, toi, tu dois détester si c'est uniquement audio et sur des longues périodes.
Non, mais c'est pas que je déteste, mais c'est vraiment parce que j'ai aussi un peu un trouble de l'attention. Donc c'est vrai que moi aussi, je suis très j'adore regarder et écouter des trucs. J'adore écouter des gens, quoi. Un truc, je me suis découvert une passion là ici il y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas très longtemps, il y a quand même un petit temps maintenant, ça fait quand même plus de 2 ans. Tout ce qui est Twitch, alors aller sur Twitch et suivre un live le jour même, le jeudi de 20h à minuit, Squeezie, j'adore ces vidéos, je regarde toutes ces vidéos sur YouTube, mais je ne vais en tout cas pas à 20h le jeudi aller me connecter sur Twitch. Mais par exemple, l'Inquiétéracide, les VOD qui font, parce que moi je suis très YouTube aussi, et très YouTube gaming et tout ça. Et l'Inquiéteracide qui font des VOD, enfin qui publient leurs VOD de Twitch. Et je regarde ça, et donc c'est des 3 heures de deux types un peu beaufs qui pètent et qui jouent à PUBG ou ce genre de trucs. Et ça me régale, quoi. Mais ça me régale parce qu'il y a le visuel aussi, quoi. J'aime bien, je pense que j'aurais vraiment du mal à juste écouter quelque chose, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu un trouble de l'attention, et je pense avec parfois un petit peu d'hyperactivité. j'ai besoin de me concentrer sur plusieurs trucs en même temps, en quelque sorte. Et malheureusement, si c'est juste l'audio, j'ai tendance alors du coup à pas être assez focus sur ce qui se passe.
Ok. Moi, j'aime bien quand il y a la vidéo, quand il y a une nécessité. Je trouve que ici, par exemple, je verrais pas l'intérêt de me voir hocher de la tête.
Ah oui, non, tout à fait.
Quand vous répondez à mes questions, parce que je trouve que ça rajoute pas grand chose en fait. Par contre, dans un contexte d'interview comme ça.
Si mon chat vomit à un moment, ce serait super intéressant d'avoir une caméra quelque part. Genre, je sais pas. Rajouter un petit côté. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, on s'imagine pas.
On pourrait rajouter tous les fans de chats au podcast. Ils n'écouteraient pas trop ce qu'on dit, mais il y a du chat, c'est trop mignon quand il a fait ça. Il y a des gens qui parlent en fond, c'est un peu embêtant. Parce que... Mais vous avez joué ici au Bivouac Comedy Club à Wavre pour sa deuxième saison. C'était lundi passé, je crois.
Le 18 juillet, ouais. C'est ça.
Parce que vous avez fait un 30-30.
C'est ça.
Ok, comment ça s'est passé?
Oh, je peux commencer. Je ne suis pas super contente de ma perf, mais je pense que c'était une bonne expérience parce que c'était la première fois que je faisais un 30 minutes depuis le Next Experience of Comedy où ça avait été plus chaotique. Je sais pas lequel des deux était le plus chaotique en vrai. Mais non, c'est. Moi, je suis pas super contente de ma perf. Maintenant, c'était chouette de refaire à nouveau 30 minutes devant un public qui, je pense aussi, le public du BOE, c'est pas forcément le public où les thèmes que j'aborde sont plus le public du BOE qui a plus de 30 ans, 40 ans, comparé à un public au King. Que j'ai rencontré la semaine dernière, que j'ai rencontré enchanté public de Kings, ou même un public qui vient voir le Next Prince et qui est très sensibilisé au stand-up et des trucs comme ça. Enfin bref, il y a plein de choses, je pense, dans le 30 minutes que j'ai fait où j'aurais dû le faire différemment pour donner plus d'énergie, pour avoir plus l'impression d'être connecté au public et moins stressé aussi. En fait, c'est très chaud et ça m'a stressé encore plus. Maintenant, il y a eu des rires, c'était pas un bide, c'était pas un tunnel de 30 minutes, c'était très bien. Les gens étaient attentifs, comme on dit si bien dans le stand-up quand, quand on n'est pas content de sa perf. Sinon, je l'ai bien vécu.
Ok, mais donc c'était la première fois que tu refaisais un 30 minutes depuis le Next Prince.
Le Next Prince qui était une expérience différente aussi parce que là j'arrivais avec un 30 minutes que j'avais composé avec plusieurs textes que j'avais rodés, alors que Next Prince c'était vraiment enfin, pour donner le contexte, le Next Prince, tu t'arrives, tu fais un premier 5 minutes et puis après à chaque nouvelle épreuve tu fais soit de 5 minutes soit de 10 minutes et il faut que ce soit tout le temps du 9 comparé à la fois d'avant. Si t'as déjà du matériel en arrivant dans le concours, tu peux le réutiliser tant qu'il a pas été utilisé à l'épreuve d'avant. Moi je suis arrivée en ayant 5 minutes et c'est tout. Et du coup, je devais écrire à chaque fois. Donc, le premier 30 minutes que j'ai fait, c'était toute la matière que j'avais, qui était absolument pas rodée, qui était vraiment un truc où je me suis dit, je vais essayer de faire un fil rouge, et puis on va voir. Mais c'était une expérience différente. J'étais beaucoup plus dans l'émotion aussi quand j'étais au Next Prince, parce que je me disais, c'est pas possible, je suis arrivée en finale. Je m'y attendais pas, il y a eu une erreur de parcours, et je suis très reconnaissante vis-à-vis des personnes qui m'ont permis d'arriver jusque-là, parce que ça m'a vraiment donné un boost dès le début, quand j'ai commencé le stand-up, pour me dire, bah, je vais continuer du coup, parce que je peux pas être arrivée en finale et me dire bon, en finale c'est pas un truc pour moi, parce qu'il y a d'autres gens qui ont confirmé qu'a priori je devrais continuer à faire du stand-up.
Et toi, Ariane, comment ça s'est passé?
Eh bien, écoute, moi super bien.
Moi je suis drôle.
Non, oui, un peu peut-être. Non, en vrai, je pense que j'ai aussi ce truc où en fait, moi c'était. J'ai déjà fait plusieurs 30-30, moi je n'ai pas non plus une expérience de fou dans le 30-30, c'était la quatrième fois que je jouais 30 minutes, la première fois que je jouais au bivouac, et c'était, franchement, moi j'ai trop adoré, je pense que c'est aussi un petit peu aussi parce que j'ai un projet de spectacle qui arrive et tout ça, je suis vraiment dans l'écriture de une heure, j'ai vraiment en fait un mindset qui me permet sur un 30 minutes de vraiment en fait... être obligé en fait d'avoir une cohérence dans mon 30 minutes et d'être assez fier et de parce que ben le 1h arrive bientôt et j'ai vraiment envie que ce soit un produit, ce ne sera pas un produit fini tout de suite. Clairement, on va encore beaucoup travailler dessus, mais j'ai envie que quand ça sorte, ce soit un minimum carré. Et donc c'est vrai que quand je fais mes 30 minutes, j'essaye vraiment d'avoir vraiment un bon fil rouge et tout ça rien que dans le 30 minutes, et là ici en l'occurrence au bivouac, c'était incroyable parce que j'avais le dernier 30-30 que j'avais fait, c'était avec Fanny Ruet en mai au Kings of Comedy Club. Et en fait, là, c'était un nouveau 30 minutes que j'ai joué et j'avais eu un peu plus de mal. Ça s'était très très bien passé, on avait fait une soirée incroyable, mais j'avais été moins contente dans le delivery de mes blagues en fait. J'avais moins bossé sur les transitions entre les blagues les unes après les autres. Et donc, c'est vrai que j'étais souvent, ok, je fais une blague, les gens rigolent. Ah ok, j'ai oublié la suite et donc je devais souvent aller regarder sur mon texte. Chose que là ici au bivouac, j'étais vraiment beaucoup plus fière parce que c'était beaucoup plus mes blagues étaient un peu plus internalisées, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça sortait beaucoup plus de façon beaucoup plus fluide. je me suis sentie très très à l'aise aussi moi sur cette scène. C'est un très chouette cadre. Il faisait 40 degrés mais on avait un petit ventilo, donc ça nous a régalé. J'ai énormément apprécié ce 30-30, c'était vraiment très très chouette et j'ai hâte de pouvoir y rejouer, parce que vraiment si les gens ne connaissent pas le bivouac, en espérant que ça continuera encore les années prochaines, mais il faut absolument que vous y alliez, quoi, parce que c'est incroyable. Ce sont des trop chouettes soirées. Vous avez des spectacles d'une heure, vous avez des spectacles de 30, enfin des spectacles où c'est deux humoristes qui font 30 minutes. Cette année aussi, vu qu'il y avait une collaboration avec Bobby, la brasserie, il y a eu aussi un plateau d'humoristes qui a été organisé pour la dernière soirée au bivouac. Donc c'était vraiment, je trouve que c'était, moi qui n'avais jamais joué là-bas, c'était un hyper chouette cadre, quoi, vraiment. Et j'ai passé un hyper chouette 30-30. Et c'est peut-être mon dernier avant mon heure. Et donc, c'est un très, très chouette souvenir.
Okay, ouais, cool. Et moi, j'ai trop envie d'y rejouer pour justement... Parce que j'ai un peu ce truc de... Dès que je sors d'une scène et que je suis pas satisfaite de mon truc, je suis là... Je veux le refaire pour prouver au monde que normalement, je suis pas comme ça. Ou un truc comme ça, genre, j'ai un énorme ego. Ce qui est dans le stand-up en général. De se dire... non, mais ça me saoule. Genre, je sais exactement sur quoi je dois travailler. Mais ça, c'est agréable, en fait. De se dire, de sortir d'une scène où t'es pas satisfait ou satisfaite. Et tu sors de là et tu dis... Je veux y retourner pour montrer que je suis capable de faire mieux. Et ça, je pense... en tout cas, au début, quand je faisais des scènes dont j'étais pas contente, je me disais, plus jamais je retourne. Et en fait, en discutant avec des gens, tout le monde m'a dit, mais c'est une bonne nouvelle, quoi. Tu sais sur quoi tu dois travailler. Tu sais là où tu dois pousser, machin. Et maintenant, c'est ce que j'essaye de faire quand je sors d'une scène où je suis pas fière de moi, quoi.
Ouais. C'est un truc important à avoir en stand-up quand tu fais un beat, de te dire c'était dur mais j'ai envie de le refaire, j'ai envie de remonter sur scène, ce qui est horrible, hein. C'était un moment difficile pour moi, c'est possible que ça se reproduise, mais on va le refaire.
Ouais.
Et si t'as pas ça, bah, arrête le stand-up.
Moi, je rappelle que c'était pas un bide, le public était attentif et à rire. S'il vous plaît.
Mais de toute façon, c'est normal quand tu crées un 30 minutes, quand tu crées un spectacle, d'avoir des moments où ça se passe moins bien, comme ça tu peux retravailler des moments. Pour ceux qui sont moins habitués au stand-up, c'est ça, on teste sur scène et on améliore sur scène ce qu'on crée. C'est pas une pièce de théâtre où tout est définitif. À un moment donné, tu le joues et ça va être la même chose pendant toute une période. Le stand-up, c'est ça, on teste, ah ça marche pas, ah on recalibre, on bouge ça, on retire ça. Et le problème, c'est qu'on est obligé de le faire devant un public. Et c'est la difficulté du truc, quoi, pour ceux qui connaissent moins le...
Après, moi, c'est ça aussi un truc où j'ai déjà remarqué avec le stand-up, et surtout là ici dans un 30 minutes, où en fait, on est tous au courant, le stand-up, un public n'est pas un autre. Une blague va passer à un tel endroit, et puis tu la rejoues exactement de la même façon, et elle va pas passer. Là ici, dans le 30 minutes au bivouac aussi, un truc qu'il faut aussi se rappeler, c'est que les gens ne sont pas venus pour le La Décienne et Oriane Garcia. Les gens sont venus pour un 30-30, un lundi soir au bivouac. Donc il y a un peu ce truc de... C'est un double challenge, en fait, parce que les gens sont pas là pour nous, en quelque sorte, donc ils savent pas du tout à quoi s'attendre. Et puis, une demi-heure, c'est long quand même. Dans le stand-up, il faut qu'il y ait un minimum de rythme et tout ça. Et en fait, malheureusement, si sur une demi-heure, ce n'est pas nécessairement ton public... Bah ouais, ça va être compliqué, mais après, c'est quand même gratifiant, je trouve, parce que c'est ça, même si c'est pas ton public, moi, quand j'ai joué le 30 minutes avec Fanny Ruet, clairement, dans le public, il y avait zéro personne qui était venue pour moi, et même il y avait zéro personne qui savait qui j'étais. Et c'est d'autant plus gratifiant, en fait, de voir que, elle m'a offert cette proposition en or, elle m'a offert un 30-30 magnifique dans une salle complète en un jour, donc c'était incroyable. Mais il y a vraiment ce truc gratifiant de « Waouh, je viens de faire rigoler 60 personnes qui ne me connaissent absolument pas, j'ai pas le même humour que Fanny Ruet, on n'a pas la même présence sur scène, on n'est pas du tout les mêmes, et c'est hyper gratifiant, quoi. » Et c'est pour ça que moi aussi, là ici, le 30-30 au bivouac, j'ai vraiment apprécié, parce qu'il y a vraiment eu ce truc de « Les gens n'étaient pas du tout venus nous voir, nous, et pourtant, on a réussi à les faire rire. On avait deux premières parties aussi qui ont aussi réussi à faire rire. » Et donc, en fait, c'est vraiment ce truc gratifiant de « Vous n'êtes pas venus pour nous, vous avez payé, donc merci beaucoup. » Ça nous touche énormément d'être rémunérés. Merci.
Ça nous touche au plus profond. J'adore l'argent.
Mais oui, c'est ça. Il y a vraiment ce truc de « Les gens ne sont pas venus pour nous et ils ont rigolé. » Donc, c'est hyper chouette, quoi.
Ouais. Et aussi, pour préciser, le bivouac, c'est aussi produit par quelqu'un qui va suivre dans ce monde du stand-up, qui s'appelle Justine Tassignon, qui... Ici, même si le bivouac se repasse pas, parce que c'est un truc qui se passe tous les étés, un lieu précis à côté de Braine-l'Alleud, si je dis pas de conneries.
Wavre.
Ok, d'accord, je déteste la géographie, mais j'adore l'argent. mais Et oui, c'est sûr que tous les projets qu'elle va faire, elle le fait avec une grosse bienveillance et toujours en faisant attention à ce que les artistes soient à l'aise. Ça, je trouve ça vraiment cool pour une productrice. Et du coup, suivez Just a Smile Proud et Lola Destiné, Aurélien Garcia, s'il vous plaît.
Ça marche. La pub au fur et à mesure. T'es déjà dans un podcast. T'es déjà dans un podcast où on fait ta pub. Hein.
Moi, je fais de la com à la base.
Ouais, mais
c'est vrai, c'est vrai.
Répéter les messages.
En même temps, elle l'a dit, hein, Lola Destiné a un ego surdimensionné. Ouais. Hein, c'est
ça qui me booste dans la vie. Et la coke.
Vous me direz ce que je coupe après. Et du coup, point commun que vous avez toutes les deux, c'est que vous avez tous les deux votre photo sur des bières avec la brasserie.
Ah non, j'ai pas
Bobby. T'as pas ta photo sur la bière?
Je travaille pour Bobby, mais j'ai pas ma photo
mais
sur la bière.
T'as pas la photo sur la bière, toi?
Non.
Ah, j'ai confondu.
Orianci.
Voilà.
Non, je fais la com pour Bobby.
Voilà, toutes mes capacités journalistiques ont été démontrées que j'étais nulle. Donc tu as ta photo sur une bière.
Moi j'ai ma photo sur une bière et si vous remarquez bien sur toutes les photos, elles sont toutes sur fond noir. Je suis la seule avec InnoJP à avoir notre photo en fond blanc. Est-ce que c'est parce qu'on a tous les deux des origines africaines? On le pense un petit peu. Non. En vrai, ouais, non, c'est vrai que moi j'avais été, j'avais aussi été contactée par Bobby et du coup c'est une collaboration entre la brasserie Bobby et le Kings of Comedy Club et moi j'avais été contactée pour faire partie de ce projet. Et après c'est ça, j'ai failli ne pas être sur ces bières parce que il y a eu un malentendu avec Cédric Van Troyen du Kings of Comedy Club qui en fait n'avait pas reçu mon message comme quoi j'arrivais pour faire les photos. Et donc je me suis dépêchée, je suis arrivée au Kings et quand je suis arrivée, il a dit ah ben le photographe est parti. Et j'étais là ah, super. Et donc ouais, c'est pour ça qu'on a dû prendre une photo qui a été faite par l'incroyable Barbara Browns. Oh. Et donc voilà, mais c'est vrai que ouais, moi j'ai ma photo sur la bière. Ouais.
Mais moi je travaille pour Bobby en fait. J'ai présenté la soirée à la fin de clôture du bivouac où il y avait des humoristes qui sont sur les étiquettes qui ont joué. Mais moi, je travaille pour Bobby Brewery, du coup, qui est une brasserie qui met à l'honneur des artistes à chaque nouvelle session de bière. Et là, c'était, dans ce cas-là, les stand-upers. Et c'est un peu grâce à ça si j'étais engagée pour travailler pour eux.
Et Aurélien, tu joues donc la première de ton spectacle au Kings of Comedy Club le 23 octobre à 20h, puis le 6 et le 27 novembre. Comment ça avance, les préparatifs, où en es-tu?
C'est compliqué et c'est très excitant. C'est compliqué dans le sens où il m'a fallu du temps avant de me faire confiance et avant de sortir mes doigts du cul, comme dirait ma mère. Une très belle expression, utilisez-la plus souvent, elle est magnifique. Il m'a vraiment fallu du temps avant de me dire ok Oriane, vas-y, c'est bon, maintenant tu... En fait, tu demandes une date pour avoir une heure de pour avoir un spectacle, et comme ça me met une deadline, et comme ça, tu arrêtes de dire, j'ai une heure. Non, tu demandes la date, on te donne une date, et tu la bosses. Et donc, ça fait depuis mai, je pense, avril-mai, que le Kings of Comedy Club m'a confirmé, du coup, ces trois dates. Et là, pour le moment, ça n'avance pas de ouf, dans le sens où je dois encore faire une affiche, je dois encore lancer la billetterie et tout ça. Et en fait, j'étais partie sur un truc de très où je voulais être très fière de moi vu que c'est mon premier spectacle, mon premier une heure. J'avais très envie en fait de faire une affiche incroyable et lancer le spectacle avec ma première affiche. Et en fait, c'est vrai que je me dis de plus en plus que est-ce que mon affiche correspondra vraiment à mon spectacle vu que ben je vais le commencer à le roder. Donc mon spectacle ne sera pas le même là ici le 23 octobre que le 23 octobre 2023 quoi où je le rejouerai peut-être. Et donc c'est très stressant en fait, c'est très stressant parce que je pense à beaucoup de choses, j'ai envie de faire les choses bien et d'un autre côté j'ai pas envie de me prendre trop la tête non plus. Et quand je me dis me prendre la tête, c'est aussi me prendre de haut en quelque sorte, me prendre pour une superstar alors que personne me connaît quoi. Donc donc c'est compliqué, mais j'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte. Vraiment à chaque fois maintenant que je joue et que je monte sur scène, que je fasse 8, 10, 15, 20, 30 minutes, c'est plus assez quoi, c'est plus assez. Je veux plus, je me sens trop bien sur scène et je sens que là maintenant j'ai vraiment la niaque. Et même si j'ai pas encore une heure de matos clair, rodé, nickel ou quoi, je sens que j'ai vraiment très envie de passer une heure sur scène avec un micro et un public devant moi. Et pouvoir leur parler, pouvoir les faire rire ou quoi. Donc j'ai hâte, mais ouais, je suis pas mal stressée.
Mmh. Est-ce que tu sais déjà nous dire de quoi va parler le spectacle?
Alors j'ai quand même envie de garder un petit peu une part de mystère sur le titre du spectacle ou quoi, parce que je pense que le titre du spectacle est bien trouvé, en tout cas par rapport, enfin en fait, de ce que je parle. le fil rouge que j'ai dans mon spectacle et le nom de mon spectacle, je trouve que j'ai fait un chouette lien. Et donc, j'ai pas trop envie de dévoiler pour le moment le titre du spectacle. Mais ce que je peux dire, c'est que mon spectacle est très fort basé sur moi-même et en fait sur, sur qui je suis. Et ben là, vous pouvez peut-être l'entendre, vous êtes peut-être en train d'entendre cette meuf, Aurène Garcia, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ouais, cette meuf parle un petit peu agressivement. venez me voir, s'il vous plaît. J'explique pourquoi est-ce que parfois on a l'impression que je suis quelqu'un d'assez agressif et violent. Mais je suis vraiment quelqu'un de très gentil, je vous jure. Ben donc, ouais, c'est ça. En fait, je pense que j'ai eu... Mon spectacle, en tout cas, j'ai eu envie vraiment de faire transmettre quelque chose de moi-même et de ma personnalité et tout ça, et que les gens, en fait, apprennent à mieux me connaître. Sur scène aussi, parce qu'au final je ne pense pas vraiment avoir de personnage sur scène. Je suis très moi-même en fait sur scène. J'ai beaucoup de mal en fait moi à trouver un on va dire une sorte d'alter ego ou quoi sur scène ou quoi. J'arrive pas du tout. Pour moi je me trouve le plus drôle quand je suis la plus naturelle et que donc je suis la plus moi sur scène. Et c'est ça aussi en fait que j'avais envie de transmettre dans mon spectacle, quitte à avouer des trucs inavouables que normalement personne n'avoue. Et la preuve, il y a des moments où parfois je pose des questions au public où en fait moi je m'incrimine et le public ne me suit pas du tout, alors que je sais très bien qu'ils font la même chose que moi, mais ils ne vont pas suivre. Et moi c'était un truc qui me paraissait intéressant de... Et puis aussi j'ai des sujets, waouh, ma réponse est très très longue. mais j'ai aussi des, il me semble que j'ai des sujets qui, sans vouloir dire que je suis quelqu'un, un génie de l'humour et que je suis hyper innovatrice et tout ça dans certains sujets, mais je pense quand même que de mon point de vue, en tant que femme, on va dire blanche, de 25 ans, j'avais quand même des sujets, je pense, qui sont un petit peu tabous ou des trucs qu'on n'ose pas trop en rire. Et pour moi, c'est un truc qui me touche très personnellement, qui touche ma vie en général. Hein, donc, et c'est quelque chose de tabou, j'avais envie d'en parler. Et jusqu'à présent, c'est très bien réceptionné par le public, donc je trouve ça hyper chouette. Et j'ai vraiment envie de voir en fait jusqu'où je peux aller avec ce genre de sujet, quoi.
Mais c'est vrai que c'est une quête en stand-up d'arriver à être soi-même sur scène. Et je trouve que c'est un truc que t'as assez naturellement. Genre, t'es dans la vie comme t'es sur scène, ce qui est assez fou. Je reviens sur la jalousie, mais je trouve ça assez cool. C'est vraiment un truc qui n'arrive pas naturellement chez d'autres. C'est un truc que toi t'as plus de facilité avec ça. Je trouve ça vraiment cool. Quand tu as dit je pense être assez naturel sur scène, il y a eu un hochement de tête de Lola et de moi direct. De oui, c'est toi. Donc ça c'est vachement cool quoi. Lola, toi t'as joué un 3x20 avec Marine Sergent et Moana à Paris en mai et ce 28 juillet au Kings.
Ouais.
Ce vendredi 5, tu remets ça, mais cette fois-ci avec Fanny Ruet et Anthony Circus. Est-ce que toi, tu commences à penser tout doucement au spectacle, à ton heure sur scène, ou pour à le moment, tu essaies d'avoir un... à fond? Je finis pas ma question, alors.
Pardon, désolé. Non, mais moi, c'est vraiment... J'ai toujours pensé au spectacle, en fait. J'ai toujours... dans ma consommation de stand-up, j'adore les spectacles qui sont... je pense que c'est aussi un point commun avec Oriane, genre Daniel Sloss, Anna Gatsby, tous les trucs qui ont un peu un truc de... de gens qui arrivent avec un concept, avec un spectacle qui est pas juste une heure de matos, okay. Et qui va être vraiment une heure, un spectacle complet où il y a un truc à la fin où tu sors et tu te dis « Ah, ça m'a fait réfléchir à ça, ça m'a fait réfléchir à ça, ça m'a fait réfléchir à ça. » En même temps, j'ai beaucoup rigolé, mais j'ai l'impression, moi, enfin, je dis pas que mon avis est une vérité commune, de moi, je préfère ce genre de spectacle qui ont un côté moins bonbon, on va dire, qui est aussi une très bonne chose. Hein, genre, moi, je vais voir des spectacles parfois de gens... où je me marre du début à la fin. Maintenant, je sais pas dire, ah, ce thème-là a été abordé, truc machin, mais c'est aussi un truc de punch et de one-line qui sont super intéressants. Mais moi, depuis le début, j'ai découvert le plateau en commençant le stand-up parce que j'allais pas avoir de plateau. Pour moi, le stand-up, c'était une heure, et puis t'arrives, et puis tu fais ton truc. Et en fait, j'ai découvert le travail que c'est derrière une heure, que j'adore, qui est vraiment cool, qui est très roller coaster, comme disent les Américains. Mais. Mais oui, moi j'ai toujours pensé au spectacle du coup dans ce sens-là, et j'essaie dans mon écriture de toujours penser à avoir une réflexion sur moi-même, de me dire ok, mais c'est quoi les thèmes sur lesquels j'ai tout le temps envie d'écrire et dont j'ai envie de parler. Je sais quel titre aura mon premier spectacle depuis une experience en fait, parce que c'est genre, je sais de quoi je veux parler, je sais machin. Maintenant, moi ce qui me manque surtout au-delà de l'écriture et des trucs comme ça, et je me rends compte de plus en plus justement en faisant des 3x20, en faisant des 30-30, c'est le delivery, le personnage, parce que j'ai un genre de personnage qui est une partie de moi-même que j'essaye de sur laquelle j'essaye de surligner. Et plein de choses, et c'est toujours les retours que j'ai eu en stand-up, c'est le problème c'est pas l'écriture, peut-être que parfois je cherche trop d'infos dans mes trucs et je m'en rends pas compte, et je m'en rends compte que sur scène, mais c'est le delivery, donc la manière dont tu délivres ton texte, la manière dont je gère mes blancs, et j'ai vraiment envie de gérer mes blancs. Eric Zemmour, viens, pardon, mais
on revient à ce que disait Oriane de cette envie de faire rire tout le temps, c'est vrai.
Et elle rigole H24 à tout ce qu'elle dit, quoi, c'est fou, hein.
J'ai un rire très communicatif, enfin très, très communicatif. Non, je ris souvent toute seule. Mais...
Ouais. Oui.
Mais je ris très fort pour compenser le fait qu'il n'y a pas une foule derrière moi qui est là. Waouh, incroyable cette blague! Oui, moi je pense très fort au spectacle. J'aimerais bien d'ici février ou mars faire la première.
Ok.
Et quitte à faire un truc qui est un peu encore en rodage sans vraiment le titre final. Et je sais que j'ai envie de parler beaucoup des thèmes que j'explore aussi. J'ai aussi un peu ce truc de vouloir voir jusqu'où est-ce que je peux amener des thèmes du style la peur de la mort, la dépression, le harcèlement scolaire, une grosse partie de rigolade. Où je commence maintenant à mettre le doigt sur la manière dont je peux en parler sans plomber l'ambiance, parce que je trouve ça très très... J'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de trouver la bonne manière dont tu parles de... moi, je suis dépressive chronique depuis que j'ai 16 ans. C'est un truc qui est très banal dans ma tête. J'arrive à en rire personnellement tout le temps parce que c'est un peu aussi mon mécanisme de défense. Mais comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que ton mécanisme de défense devienne un truc que les gens ne vont pas forcément comprendre, mais où ils vont rire avec toi parce qu'ils comprennent d'où ça vient et que ça va, que c'est pas un truc... Enfin, je vais pas faire des parallèles pétés, mais moi, genre, c'est juste, genre, l'anxiété, par exemple, pour moi, c'est devenu un truc banal, parce que je l'ai depuis, là, pour le coup, depuis que j'ai 13 ans. C'est genre un petit diable sur mon truc qui me dit parfois, il est vraiment une vieille merde, mais au bout d'un moment, c'est juste, en fait, j'ai appris à vivre avec. Et genre, quand j'en parle, quand je fais des blagues dessus, moi, c'est pas parce que je vais pas bien. C'est justement parce que j'ai réussi à le choper et dire, vas-y, vu que t'es là, autant qu'on rigole. Et, et le petit diable, il est là, quoi?
Mais le public est pas au courant du chemin que t'as fait, donc il faut que tu lui donnes les clés pour se dire, c'est cool, on peut rire de ça. Mmh. Et moi, je suis persuadé qu'on peut rire d'absolument tout, mais il faut absolument que...
Prendre
le public par la main et montrer que t'es à l'aise avec le fait d'en parler. Par exemple, Shirley Soignon, elle est montée sur scène où elle dit des trucs qui sont vraiment très très durs qui lui sont arrivés. Et t'as vraiment elle le dit frontal. Et donc t'as vraiment une réaction dans le public de... Ok. Est-ce qu'on est pris en otage? Est-ce qu'elle va nous parler d'un truc vraiment dur? Et elle arrive à l'amener d'un truc tellement drôle qui fait tellement du bien parce que c'est un sujet dur. Et moi, j'ai un besoin de rire de trucs qui te font pleurer, qui sont tristes pour arriver à passer au-dessus. Et je trouve qu'elle arrive à faire ça de façon magistrale, mais c'est super chaud. Et parce qu'elle arrive à le faire aussi parce qu'elle a 15 ans d'expérience derrière. C'est super chouette. Déjà que tu veuilles aborder des sujets profonds, des sujets qui te touchent, parce qu'on est quand même tous les trois au début de notre carrière, et aborder des sujets importants, des sujets qui touchent, c'est pas facile quand même au début.
Mais je pense que le plus facile aussi, c'est de... Enfin, après, c'est parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais après, j'ai beaucoup d'amis qui font de stand-up et ils n'ont pas du tout la même façon de travailler que moi. Mais moi, je suis très dans le... Je peux pas écrire des choses sur les gens, quoi. Je suis obligée d'écrire un truc qui, moi, en fait, moi, je peux comprendre, quoi. Parce que sinon, j'ai l'impression de dire que de la merde et d'inventer des choses. Et c'est vrai que, pour moi, si tu parles de quelque chose qui t'est arrivé à toi, de ton ressenti, de ton point de vue... Si c'est bien écrit, si c'est bien amené, ça ne peut être que drôle, quoi. Et là, quand tu parles de Charles Soignon qui arrive avec un truc de très dur, mais qui arrive à en faire quelque chose de très drôle, ça revient aussi un petit peu avec le nom que t'as droppé là tantôt, Daniel Sloss. J'ai encore regardé ces deux spectacles là il y a pas longtemps. Son premier spectacle qui a été sorti sur Netflix. Incroyable, quoi, le fait de pouvoir parler, parce que du coup, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous spoile pas, mais il parle de sa petite sœur qui est handicapée lourdement, et il fait des blagues sur son handicap, et la plupart des gens dans le public sont choqués, gênés, et il dit un truc incroyable: vous êtes blessé par cette blague à cause de quoi? Parce que vous êtes pas physiquement handicapé, donc vous n'avez pas à être blessé par cette blague. Et en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc où les gens se sont toujours là en mode « Ah oui, mais on peut pas rire de ça parce que c'est touchy. » Ouais, mais non, si la personne elle-même a décidé de venir en rigoler, surtout en plus Daniel Sloss, il s'est publié sur Netflix, tu penses bien que le type, il s'est pas dit, juste avant de monter sur scène, est-ce que je parlerai pas de cerebral palsy, enfin, je sais plus comment est-ce qu'en français...
Palsy.
Ouais, mais en français, je sais pas comment est-ce qu'on dit, parce que j'ai toujours entendu cette maladie, à croire que cette maladie ne touche que les Américains.
Je crois que c'est paralysie cérébrale.
Ah ben, je pense que c'est tout à fait ça, parce que ça a complètement de sens.
Ouais. Cerebral palsy. Est-ce que c'est le persil cérébral?
Bon, c'est... Mais enfin, je trouve ça en fait très drôle, quoi, parce que c'est ça, c'est pas de l'impro, c'est quelque chose de réfléchi. C'est, si c'est surtout mais pour un sujet aussi touchy, quoi, parce qu'il est pas en train de parler de célibat, et même quand il parle d'amour et qu'il parle de relations amoureuses, il parle de trucs qui sont si trash et qu'au fond tout le monde en est bien conscient, mais la façon dont il l'amène, tu peux pas ne pas être blessé par ce qu'il dit. Parce que la façon dont il l'amène est tellement... je pourrais pas dire naturel parce que c'est pas le mot naturel, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien emballé, c'est tellement bien proposé que tu peux pas être choqué ou être offusqué par ce genre de blague, tu vois.
Et il admet le fait que tu peux ne pas être d'accord avec lui.
Oui, ça aussi.
Mais il est là aussi. Bon, en fait, tu peux couper ou tu peux t'en aller, il n'y a pas de souci. Il raconte des expériences où il a joué des trucs très, par exemple, anti-catho devant des catholiques intégristes aux États-Unis ou dans les Middle States, et où vraiment il a failli se faire frapper, mais en fait il a discuté avec le public après. Mais moi, ce que je trouve qu'une de ses plus grosses forces aussi, j'ai eu la chance de le voir à Bruxelles parce qu'il est passé là, et là c'était pas du tout un truc où il y avait un concept, c'était vraiment, et il l'assumait au début, genre si vous avez vu Jigsaw ou son premier spectacle qui sont sur Netflix, qui ont vraiment buzzé à un moment, c'est pas du tout ça, hein. Je vais pas vous transmettre un message, et c'est vraiment que de la vanne, de la vanne, de la vanne, de la vanne tout le temps. Et il y avait un moment où c'est drôle parce que je trouve qu'il trouve une manière différente de dire si vous êtes pas d'accord avec moi, c'est ok, et commencez pas à vous offusquer pour les gens, mais d'une manière différente à chaque fois, à chaque spectacle.
Oui,
c'est super intéressant. Enfin, je finis. Parce que je trouve que jamais, à aucun moment, il fait des blagues où tu sens qu'il fait des blagues sur tout, mais il est jamais raciste, il est jamais homophobe, il est jamais quoi que ce soit, alors qu'il parle de plein de sujets dans ce style, mais tu sens qu'il désamorce très fort et qu'il se met dans la position du gars qui est un connard. Genre, il va jamais glorifier le fait de trucs comme ça, et il assume totalement. Et la blague qu'il avait faite, que j'avais trouvé très forte, c'était que il avait remarqué que chaque fois qu'il faisait une blague où les gens se posaient la question, est-ce que c'est raciste ou pas, genre, tous les blancs se retournaient vers les personnes noires qui étaient là. Et qu'il vérifiait, ok, il est en train de rigoler, c'est bon, je peux rigoler. Et que devant les publics de blancs, ces blagues-là ne fonctionnaient pas du tout. Et les publics les plus diversifiés, où il y avait le plus de personnes racisées, ils faisaient des cartons sur ces vannes-là, et c'était incroyable, mais ça m'avait fait rire. Et tu remarques ça en fait en stand-up, quand c'est un public de blancs, ils font plus être genre. Plus parce que. Épée de Damoclès au-dessus de toi, et tu te dis merde, est-ce que j'ai le droit de rire de cette vanne ou pas. Mais c'est...
Et moi, je trouve que c'est ça qui est fou dans les scènes de peur, qui arrivent justement, tu vois, genre à faire un spectacle et à unifier dans une salle. C'est tellement bateau, je me déteste de dire ce genre de truc, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment des gens qui arrivent dans une salle, t'as 150 personnes, et ces 150 personnes vont rire des mêmes choses, alors qu'elles n'ont pas la même éducation, elles n'ont pas la même culture, elles n'ont pas le même vie, enfin rien du tout. Le même vie. Ouais,
le même vie.
Mais on dit une vie.
Mais tu n'étais pas. Le français, c'est pas ton langue maternelle, c'est
non,
ça.
Non, c'est ça.
Orián García.
Orián García. On va continuer la suite de l'épisode en espagnol.
Sí, pero.
¿Por qué el stand-up?
Porque. ¡Para, toma la cara!
J'assume plus cette blague.
Moi non plus.
Mais donc, juste pour terminer, je trouve ça. Et c'est pour ça aussi que moi, dans mon spectacle, j'arrive parfois à faire applaudir des gens sur une vanne atroce, quoi. Et ça me. Vraiment, ça me régale. Et d'un côté, ça m'horrifie. Que les gens applaudissent sur une vanne d'un enfant mort, et d'un autre côté, je trouve ça incroyable, quoi. Et je pense que c'est la meilleure consécration. Un jour, j'ai vu une vidéo de Andrew Schulz,
un gars qui tue un enfant,
d'un humoriste qui est aussi très très drôle. Et en fait, c'est un jour, j'ai vu une de ses vidéos où en fait, il fait une blague à un père avec son fils, et le fils a été adopté, et le père est noir et le fils est blanc. Et donc c'est assez rare qu'on voit ça dans ce sens-là. Et il fait une blague atroce sur le fait que le père, qui a lui été esclave pendant 400 ans, mais il a essayé de se dédouaner ou je ne sais plus quoi, de prendre sa revanche en adoptant un petit blanc, quoi. Et la salle en entier rigole, lui aussi est mort de rire, son fils est mort de rire. Et vraiment, j'ai vu ça et j'étais là, waouh, mais moi, c'est ça que je veux, quoi. Moi, c'est, je veux un public qui me comprenne et qui comprenne le délire et qui comprenne la vanne, qui comprenne le. On peut en rigoler, quoi. Et moi, c'est vraiment pour ça que je trouve que, qu'en effet, un spectacle qui a un fil rouge, je suis aussi plus attirée par un spectacle qui a un fil rouge que par un spectacle qui juste c'est punch, 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 punch. Et puis, oui, tu passes un très bon moment, mais c'est vrai que moi, j'aime bien ce truc aussi où t'es vraiment en connexion avec la personne et l'univers, quoi, qu'il raconte.
Est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose par rapport à vos actualités respectives ?
Moi, j'ai peut-être un truc, mais c'est parce que j'ai pas encore fait la promo de ce truc-là. Mais normalement, au moment où le podcast sortira, je vais lancer une newsletter, parce que j'ai 56 ans. C'est une newsletter qui va s'appeler « Tout pour percer », où l'idée, c'est j'ai besoin d'un truc pour me forcer à écrire. Et j'ai besoin d'un truc pour... j'aime bien parler de ma petite vie. Avant, j'étais journaliste écrite. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais envie de parler de moi et pas des autres. L'ego. L'ego énorme. Mais pour parler un peu d'actualité stand-up, raconter qu'est-ce que c'est, justement, un peu comme dans ce podcast, de se lancer dans stand-up et avoir envie de percer. Qu'est-ce que ça veut dire percer ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour vivre du stand-up ? Enfin, plein de trucs. Et un peu les compromis dans sa tête qu'on fait le chemin jusque ça et jusque-là. Et aussi parler des trucs que j'aime bien en humour, que ce soit des gens connus, des gens pas connus, des trucs sur Netflix, des trucs sur des plateaux, des trucs partout. Et voilà, c'est une newsletter qui s'appelle Tout pour percer, c'est gratuit de s'abonner, et ce serait une fois toutes les 2 semaines, normalement.
Ah ben, je vais m'abonner.
Génial.
En même temps, je suis un peu public cible pour ça. Hein. Non, c'est ça. Clairement, si moi je suis pas dedans, je fais mais... c'est bizarre quand même.
C'est juste qu'il voulait... Merde, je me suis trompée de cœur de cible, chier. Et voilà.
Ok, bah alors on est revenu sur votre actualité, mais dans le podcast, j'aime remonter le temps. Damn. Du coup, j'ai besoin de savoir, pour votre future page Wikipédia, vous êtes né où et quand ?
Oh, waouh ! Ouais. Tu veux aussi mon heure de naissance pour savoir quelle est ma lune ?
Tu peux.
Alors malheureusement, je ne connais pas mon heure de naissance, mais moi je suis née le 23 janvier 1997 à Uccle.
Et moi je suis née le 20 décembre 1926 à Saint-Jean, à côté de Toulouse.
Ok. C'est pour la page Wikipédia.
C'est pour la page Wikipédia.
C'est important.
À 21h. Ce qui fait que je suis Sagittaire ascendant Lion. Ok. Voilà, c'est intéressant.
Ça marche. Moi, j'ai signé le 5 mars 1993 à 19h57. Je suis donc Poisson ascendant Bélier et ma lune étant Lion.
Oh.
Ah, bon à savoir. Ouais.
Et moi, je suis Yoren Garcia et j'en ai rien à parler de l'astrologie.
Vous pouvez me suivre aussi sur CoStar, sur The Pattern, sur...
Ok, et est-ce que enfant, vous étiez déjà des gens drôles ? Peut-être commencer avec Oriane.
Oui. Alors, enfant, moi j'étais pas très marrante. Parce que moi, enfant, je viens d'une famille très nombreuse. Enfin, très nombreuse. On est 5 enfants, on a grandi dans une maison avec 5 enfants de même parents. Et ça a été un petit peu compliqué parce que 5 enfants où on a tous un caractère très différent et puis on a des origines espagnoles. Qui sont très présentes, qui ont été très présentes dans les repas du soir, c'est-à-dire qu'on s'engueulait énormément. C'était vraiment le cliché de la famille nombreuse, quoi, où c'est une très chouette famille, tout le monde s'aime et tout ça, mais ça gueule beaucoup, parce qu'on avait tous des caractères différents et on a tous des caractères assez forts, donc c'était un peu compliqué. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal à me comprendre moi-même parce que je suis un petit peu hypersensible et donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions et quand j'étais plus jeune, l'hypersensibilité, on n'en parlait pas du tout. Et c'était vraiment juste... Et puis en plus de ça, moi je viens d'une famille où mes deux parents n'ont pas été les plus, on va dire, bercés et les plus enrobés d'amour par leurs propres parents. Et donc eux-mêmes ont eu du mal quand ils avaient une gamine qui chialait pour tout et pour n'importe quoi, qui avait des problèmes à l'école, vraiment beaucoup de problèmes. Et je pense que mes parents ne se rendaient pas compte en fait que j'étais hypersensible parce que ce n'était pas du tout connu à l'époque. Et donc c'est vrai que moi à l'époque j'étais pas très très drôle, quoi. Quand j'étais vraiment plus jeune, j'étais plus une gamine. J'adorais faire rire, mais j'étais pas très drôle dans ce sens-là. C'est bizarre, un peu paradoxal. Et puis en fait, en grandissant, je me suis fait beaucoup harceler à l'école. Et donc là aussi, je n'étais pas nécessairement quelqu'un de drôle, mais paradoxalement, j'ai toujours bien aimé faire rire, quoi. En fait, j'ai toujours bien aimé faire rire quand j'étais en groupe. Et quand je suis toute seule, je me suis toujours détestée et j'ai jamais été très très marrante, quoi. Et en fait, c'est vraiment quand je suis avec des gens, j'ai toujours adoré raconter des vannes, raconter des anecdotes et tout ça. Et c'est vrai que je me souviens à l'époque, quand j'étais à l'internat, l'internat des filles était un peu plus loin de l'école des garçons. Je vais pas citer l'école ni l'internat parce qu'ils m'ont fait une fouille au corps et qu'ils ont de la chance que je les ai pas dénoncés à la police. Donc je pourrais balancer le nom, mais je vais pas le faire. Et c'était un internat où en fait tous les matins on marchait jusqu'à l'école avec les filles. Et en fait, à chaque fois, je racontais des anecdotes, à chaque fois, je racontais des blagues et tout ça. Et mes copines de l'internat, quoi, me disait, putain, mais t'es trop Florence Foresti, parce que c'était l'époque de Florence Foresti, quoi. Et moi, j'étais là, waouh, trop bien, c'est vrai que c'est trop drôle et tout. Mais et j'ai l'impression que tellement de stand-upers actuellement me disent ça. Mais moi, à l'époque, quand j'avais 14-15 ans, c'était impensable pour moi d'un jour vraiment monter sur scène et faire des blagues, quoi. Parce que déjà, pour moi, en Belgique, j'avais pas l'impression que ça existait. Et puis aussi, parce que tout simplement, pour moi, c'est pas possible, quoi, de réussir à en faire quelque chose. Et donc ouais, j'étais pas très drôle, mais il y a un jour où je me suis rendu compte que en fait je l'étais quand même un petit peu, et que j'avais envie de voir où ça pouvait m'amener, quoi.
Ok. Et toi, Lola, est-ce que tu étais drôle enfant?
Je sais pas, je pense que j'étais surtout drôle malgré moi, un peu genre je faisais tout le temps des trucs à la con tout le temps. Ma mère rigolait beaucoup de ce que je faisais, mais je me rendais pas compte que c'était rigolo, genre. Mais déjà, je réfléchis à des trucs, oui, c'est un truc dont j'essaie de parler sur scène, mais enfin, j'avais aucune conscience du danger, je pense. Et genre, on vivait à la campagne et je pouvais partir pendant une heure chez la fermière d'à côté parce qu'un jour elle m'avait donné des bonbons et j'avais 7 ans et c'était un peu chaud de faire ça quand t'as 7 ans parce que tu traverses des prés où il y a des chevaux. D'ailleurs, je parlais aux chevaux, j'étais persuadée que j'avais un pouvoir magique où je pouvais parler aux chevaux. Et un jour, on avait des chevaux parce qu'on avait des chambres d'hôtes, c'était la campagne, il y en a un qui a mordu l'autre. Et je me suis dit, il faut que je résolve ce problème. Je suis allée au milieu. J'avais 5 ans, je suis allée au milieu du pré. J'ai pris un fer à cheval et j'ai commencé à dire, c'est le symbole de votre amitié. Et je l'ai posé sur une bûche. Et ça a résolu leur amitié. Après, ils ont fait des brunchs ensemble. C'était très cool.
Donc, toi, t'étais pas drôle quand t'étais jeune, t'étais con, toi.
J'étais un peu con, ouais. Mais surtout, j'étais très seule. Ce qui est pas faux, en fait. J'avais deux grands frères qui étaient plus proches en âge. Et moi, j'étais un peu la petite dernière où, toutes leurs passions à l'époque. Aujourd'hui, on s'entend super bien, c'est trop cool parce qu'on a un peu le même genre de vie. Mais à l'époque, j'étais la petite chieuse qui voulait pas jouer au foot, qui voulait pas faire plein de trucs. Ils me faisaient jouer dans leurs vidéos de BMX parce qu'ils disaient, on avait un caméscope. Mais genre, j'étais là, ils me disaient, et maintenant, tu dis, t'es une petite glande, et j'étais là, je suis une petite glande, et juste pour avoir l'affection de mes grands frères. Maintenant, je consommais déjà en fait beaucoup. Dès que j'ai été petite, j'étais à fond, j'écoutais à fond Rire et Chanson, ce qui est une très bonne et une très mauvaise chose parce qu'il y avait beaucoup de bigards quand même sur Rire et Chanson. Ouais. Ma mère était fan d'humour aussi. J'ai vu tous les Foresti très tôt, tous les bigards en vrai, parce qu'elle aimait bien bigard. Il y a certains trucs de bigard qui, même si je n'aime pas bigard aujourd'hui parce que je trouve que c'est plus du tout en accord avec mes valeurs, mais à l'époque, oui, il y a eu le sketch de la chauve-souris, c'était mon banger, et c'était trop bien. Mais comme j'ai dit, en grandissant aussi, je pense que l'humour en fait est venu comme un moyen de me forger une personnalité, parce que pendant très longtemps, en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le fait de me faire des amis, vu que j'avais beaucoup de solitude et beaucoup de trucs. Mais en soi, j'étais bien avec moi-même, genre plus introvertie peut-être, mais j'ai eu beaucoup de temps à me faire des amis. Je voyais les amis plus comme une nécessité sociale, et je faisais en sorte de me calquer sur les passions des autres pour me faire des potes. Genre, j'étais fan des Witch, des Winx, j'ai été fan de Harry Potter, de Poney, genre vraiment juste pour me faire des potes. Et à un moment, en fait, j'étais juste une espèce de coquille vide chelou qui disait jamais vraiment ce qu'elle pensait. Et je pense qu'au bout d'un moment, j'ai remarqué que je faisais rire des potes. Je me suis dit, ah, mais c'est peut-être ça ma personnalité, en fait. Et je crois que j'ai creusé là-dedans. Et je me suis rendu compte aussi que c'était trop bien de faire rire les gens. Genre, c'était le feu, quoi. C'était trop bien. D'un coup, t'as une approbation sociale qui est juste basée sur le fait que, ce que tu penses, c'est à la fois rigolo et peut-être, sauf si c'est une énorme blague de paix, genre, c'est peut-être un peu intelligent. T'as fait une observation sur un prof. Et aussi, j'ai eu du harcèlement scolaire pendant 2 ans. Et au moment où j'ai changé d'école, en fait, ça a été aussi un peu la manière d'éviter que ça se reproduise, parce que je restais la même personne, un peu un télo qui aimait bien avoir des bonnes notes et des trucs comme ça, et peut-être un peu weirdo, j'étais tellement bizarre, où je devenais facilement une cible pour les gens pour faire du harcèlement. Aussi, on dit souvent que les personnes hypersensibles sont des cibles de harcèlement, toi-même tu sais. Et et en fait, avoir de la répartie et savoir vanner les gens qui venaient pour me vanner, ou d'un coup, je me rappelle très bien d'une scène où on était en cours d'un truc du style techno où il y avait on pouvait discuter ensemble, il y avait quelqu'un qui commence à me vanner. Moi, je sortais de mon école, on m'avait défoncé la gueule pendant 2 ans, je me suis dit non, c'est pas possible. Il me vannait en faisant des blagues, et en fait j'ai fait des blagues qui étaient plus drôles que les siennes. Et d'un coup, je pense qu'il y a eu un truc de coup, bon, on va pas trop aller la faire chier parce qu'en fait elle est plus drôle que nous, faut pas qu'on commence.
Ouais. Vraiment l'humour comme moyen de défense, quoi.
Ouais, c'était vraiment un mécanisme de défense dans tous les sens du terme. Et par après, bah, le stand-up. En fait, quand j'étais journaliste, je me posais beaucoup la question de... en fait, j'adore ce métier, mais en fait, est-ce que parfois, j'ai pas envie, moi, d'être de l'autre côté du micro et raconter un peu ce que je pense plutôt que poser des questions à une autre personne? Égo énorme. Et au final, c'est ce qui s'est passé. C'est en fait, en faisant une interview avec Fanny Ruet, qu'on a un peu discuté et j'ai dit, ouais, peut-être qu'un jour, je ferai du stand-up. Elle commençait à peine et elle m'a dit, mais pourquoi pas? Et puis, apparemment, elle s'est reconnue au moins en disant que j'avais les défauts qu'elle avait il y a 2 ans, du style pas avoir confiance en elle, pas oser dire à demi-mot que t'as envie de faire de l'humour alors que t'es passionné de ça, être une espèce de gros stand-up nerd et pas te dire en fait c'est moi qui devrais être sur scène et pas commencer, ce qui est souvent le profil de plein de gens qui osent pas commencer le stand-up. C'est moi parfois je sors de scène et là j'ai eu le cas à Liège, il y a une meuf qui vient qui me fait des retours, je me suis dit j'ai des gens qui font du stand-up depuis 10 ans, ils me font pas les retours que tu viens de me faire. Genre, ah oui, là je trouve que ton silence il est pas assez long, il faudrait que tu le laisses un peu plus. Et puis ça sent que là, cette vanne là, ça sent vraiment que tu l'as recherché de ce côté-là et l'effet que tu produis. Et je suis dit, ah mais meuf, mais dis, t'as jamais pensé à faire du stand-up toi? C'est vraiment. Non, mais c'est pas fait pour moi. Bien sûr que c'est fait pour toi en fait. C'est pas parce que tu t'imagines pas sur scène que tu devrais pas y être. Et tant qu'à faire, teste une fois et si ça te plaît. Tu continues, si ça te plaît pas, t'arrêtes. Ça coûte rien de commencer. Du coup, après cette conversation avec Fanny, j'ai commencé à me dire bon ben, il serait bien de commencer le stand-up. Puis il y a eu 2 confinements, et puis après, j'ai fait ça.
Mais t'as un peu répondu à la question que j'allais te poser juste après, mais c'est pas grave. Du coup, je vais la poser à Auriane. Est-ce que toi, tu consommais déjà beaucoup de comédie avec tes parents, à la télévision, vous allez voir des spectacles, ce genre de choses? Ou pas spécialement?
Donc moi, comme je disais, j'ai grandi dans une famille nombreuse, dans les bois, donc on n'avait pas la télé. On avait l'eau courante et l'électricité, mais on n'avait pas la télé. Et en fait, au niveau télévision, j'ai pas regardé grand-chose. On peut pas dire que Blabla, ça a été mes débuts humoristiques. Et non, quand j'étais plus jeune, mes parents étaient pas très axés humour à aller voir. Mon père est fan d'humour, genre Monty Python, ce genre de trucs et tout. Voilà, c'est un grand fan d'humour en général. Ma mère, un petit peu moins... Mais je pense qu'elle aime quand même bien rigoler. Ce serait un peu triste sinon. Mais après, c'est vrai que ouais, non, moi, en étant plus jeune, pas nécessairement. Je pense que quand c'est avec Internet, quoi. Quand Internet a commencé, mes premiers souvenirs de regarder des sketchs, regarder des spectacles et tout ça, ça a été vraiment... J'avais à partir de 11 ans, je pense. À partir de 11 ans, j'ai commencé à regarder des trucs. Et dont les spectacles de Florence Foresti, les spectacles de Gad Elmaleh. Vous voyez pas, mais j'ai mis des guillemets parce que c'est Gad Elmaleh, du coup. Ouais, j'ai regardé énormément, moi, des spectacles. Et puis, en grandissant avec YouTube et l'explosion de YouTube, de Montreux et tout ça, j'ai tout bouffé, quoi. Vraiment, j'ai tout bouffé. Il y a des sketchs, par exemple, Guillermo Guise. Il a 3 vidéos, 3 captations différentes, même sketch. J'ai regardé les 3, quoi. Parce que rien que là aussi, ça m'intéressait, avant même d'avoir commencé le stand-up, ça m'intéressait déjà de voir, en fait, ah oui, ok, en fait, là, les gens n'ont pas rigolé de la même façon que là. Et j'avais déjà un petit peu cette analyse, sans vraiment avoir d'analyse, parce que je déteste penser au stand-up quand je regarde des vidéos de stand-up. Ça m'arrive très souvent quand Montreux commence à lâcher plein de vidéos de ne pas vouloir les regarder parce que j'ai pas du tout envie de regarder du stand-up. Mais sinon, ouais, je suis une énorme consommatrice de stand-up. Et puis j'ai regardé énormément de stand-up sur YouTube jusqu'un jour où en fait où je me suis dit bah ouais, vas-y, en fait moi aussi je pourrais me lancer, quoi.
Mais c'était quand ce moment où tu t'es dit moi aussi je peux me lancer?
Et j'ai fini mes secondaires en 2015 et j'ai commencé des études en haute école de logopédie, orthophonie pour les Français qui nous écoutent. Et en fait, j'ai pas du tout apprécié parce qu'en fait, je me suis rendu compte au bout de 2 ans et demi qu'en fait, j'aimais pas les enfants. C'est compliqué quand tu fais des études de logopédie, quoi. Et donc j'ai arrêté ces études parce qu'en fait, j'aimais pas du tout. C'était horrible. Je vivais le divorce de mes parents qui ils ont divorcé très tard, ce qui a aussi été très compliqué pour moi à accepter et à vivre. Et c'est ça. Et en fait, j'ai pété un câble avec mes études. J'ai arrêté. Et puis pendant 1 an et demi à peu près, mes parents m'ont un peu laissé de côté. Genre, ils ont accepté que j'ai fait des cours de langue et tout ça pour histoire de quand même pas ne rien faire. Et en fait, c'est pendant vraiment cette année et demie là où en fait je faisais des cours de langue, je travaillais dans un restaurant, Et j'avais des journées assez remplies, et d'un autre côté, pas nécessairement, parce qu'en fait, j'avais mon cours qui commençait à 13h jusque 17h, puis 17h, je quittais le cours, j'allais directement au resto, je finissais à minuit, 1h du matin, j'arrivais de 1h du matin jusqu'à 6h, j'étais dans mon lit à regarder du YouTube, et puis après, j'allais dormir, et ainsi de suite. Et en fait, j'étais là, ok, mais en fait, le stand-up prenait déjà énormément de place dans ma vie, alors que je ne l'avais même pas commencé. Juste le fait d'en regarder sur internet, ça prenait déjà une part folle. Et en fait, il y a un jour où j'ai vu que Guillermo Guise faisait des cartes blanches au Kings of Comedy Club, donc à l'époque en 2018. Et j'ai mon meilleur pote qui était ultra fan de lui aussi. Et donc, un jour, pour son anniversaire, je nous ai offert deux places pour le Kings of Comedy Club. Et en fait, c'est en rentrant dans le Kings, première fois où je rentre dans le Kings en 2018, je rentre et la première personne que je vois en rentrant, c'est Guillermo Guise.
Oh.
Et là, je me dis en mode, waouh, yo, qu'est-ce que c'est? Enfin, pour moi, c'était inconcevable, quoi. C'était inconcevable que l'humoriste qui allait faire son spectacle était juste à côté, quoi. Et donc, j'ai passé le spectacle, j'ai trouvé ça incroyable. C'était une carte blanche, donc c'était une sorte de plateau. Et en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai réfléchi. Et il y a un jour, juste avant d'aller au travail, je me suis sortie les doigts du cul et j'ai écrit, je me les suis lavées parce que j'ai écrit un message à mon père. J'ai écrit un message à Guillermo Guise, vraiment la bouteille à la mer, vraiment. Et là aussi, je me déteste de dire ce genre de truc, mais j'y croyais vraiment pas, quoi. J'ai envoyé le message en y croyant vraiment pas. Et en fait, je lui ai envoyé un message en mode, hey, salut, je suis venue te voir la carte blanche. Et je t'avoue qu'en fait, j'ai été assez impressionnée du fait qu'en fait, tu étais très proche de ton public. Et en fait, je pense que j'ai envie de me lancer dans le stand-up. Seul problème, j'y connais strictement rien. Je sais pas du tout où je peux commencer. Et c'est Guillermo Guise qui, à ma plus grande surprise, m'a répondu en mode, ben, viens les lundis au Kings of Comedy Club, comme ça tu rencontreras des gens. Et je lui ai dit, ouais, mais tu es sold out jusque fin juin. Et il m'a dit, oui, mais c'est pas grave, tu viens et moi je te fais rentrer gratuitement. Mmh. Et donc là, j'étais là en mode, waouh, c'est-à-dire. Et donc je suis arrivée un jour au Kings of Comedy Club en mode, bonjour, Guillermo Guise m'a dit que je pouvais venir et tout gratos. Et la personne m'a dit, ah oui, vas-y, je t'en prie. Et je pense que c'était probablement Justine qui m'a fait rentrer dans ce Kings. Et en fait, là, j'ai rencontré deux humoristes, dont un que tu as déjà... Nikos, tu n'as
pas
jamais
encore,
vu.
Pas encore.
Nikos et Bénin. Et en fait, deux humoristes qui, à l'époque, jouaient, et encore maintenant, mais qui, à l'époque, jouaient beaucoup principalement avec le What the Fun. Et en fait, je suis arrivée et j'ai commencé à leur parler. Grande chance, on a quasi le même âge. Et donc, c'était vraiment très facile. Et puis, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Donc, j'ai pas eu de problème nécessairement à aller leur parler. Et en fait, on a parlé un petit peu. Et grâce à eux, ils en ont parlé avec Rudy Lejeune qui tient du coup le What the Fun. Et en fait, Rudy Lejeune qui a cru qu'en effet, oui, en effet, c'était une bonne idée de me faire jouer. Et donc, il m'a fait jouer. Et depuis, je joue au What the Fun et ça s'est toujours très bien passé et tout ça. Et donc, ouais, je pense que je dois un peu mon entrée au stand-up à plusieurs personnes et principalement à Guillermo Guise qui m'a vraiment offert cette opportunité de fou. Et puis aussi, bah, grâce à moi, d'avoir osé envoyer ce message, même en pensant que jamais il allait répondre. Mais, et je pense que, sans déconner, je pense que s'il n'avait pas répondu, je pense que j'aurais jamais commencé le stand-up, ou en tout cas pas à ce moment-là, quoi.
Okay.
C'est drôle, on a chacune notre parent marraine de
stand-up. Ah ouais,
j'ai pas mais j'aime bien, c'est que ce soit nos deux humoristes phares du moment,
ouais.
Guillermo Guise et Fanny Riouet, qui soient tous les deux votre porte d'entrée pour l'humour, et qui aient ce truc super chouette de vouloir se dire, ben, y a de la place pour d'autres,
ouais.
Ramenons des gens, tu vois, c'est la mentalité que j'aime bien dans le stand-up, de plus il y a de gens qui font du stand-up, plus le stand-up vit, plus c'est cool pour tout le monde en fait, que t'aurais pu avoir des trucs de ouais, le stand-up c'est vraiment dur, franchement tu sais pas ce que c'est, pour moi j'y arrive parce que j'ai beaucoup de talent. si tu tombes sur quelqu'un comme ça, tu peux vraiment refroidir des gens. Là, c'est vraiment chouette qu'il faisait vraiment tendu la main pour le faire.
Mais je pense que c'est surtout aussi parce que ce sont deux personnes. Bon, après, je connais un peu plus le passé de Guillermo Guise sans vraiment le connaître, mais par rapport à Fanny Riouet. Mais Guillermo Guise, j'ai l'impression qu'il a tellement galéré pour arriver là où il en est. Fanny aussi, elle a dû tellement se prouver à elle-même et aux gens que du haut de son 1m50, elle avait du talent, quoi.
Mmh.
Et que du haut de son, elle vient sur scène, elle vient pas dans des tenues mirobolantes avec du maquillage ou quoi, elle est très naturelle, quoi. Elle vient, elle lâche son truc. Guillermo Guise, c'est la même chose, il vient, il lâche son truc. Et en fait, je pense que ce sont des gens qui ont tellement bossé qui comprennent en fait, qui comprennent qu'il y a certaines personnes qui méritent d'avoir leur chance et qui méritent d'avoir un petit peu plus de visibilité. Bon, après, sur les deux, Guillermo Guise et Fanny Ruey, il y en a un des deux qui paye pas ses premières parties. Donc il y en a un des deux qui est plus gentil que l'autre. Mais non, c'est une aubaine, quoi. C'est une aubaine de recevoir un message de Guillermo Guise ou de Fanny Ruey qui propose une première partie, qui propose un 30-30. C'est fantastique, quoi. Et c'est vrai que c'est rare, et d'un autre côté, il y en a quand même quelques-uns en Belgique qui le font, et à Bruxelles particulièrement. Mais c'est vrai que, ouais, je pense que c'est vraiment parce que eux ont galéré et qu'ils savent que, bah ouais, en fait, il vaut mieux se tenir, parce que oui, on est tous dans le même bateau, dans le sens qu'on fait tous du stand-up, mais on fait pas la même chose, en fait. On fait pas le même stand-up, on fait pas les mêmes humours, et donc, Je pense pas que les dentistes entre eux ils sont là, ouais, lui c'est de la merde, c'est de la merde. Bah, vous êtes tous dans le même truc, donc autant tout ce qu'on soit tous ensemble, cette métaphore, cette comparaison avait aucun sens.
J'ai vu ses plombages.
C'est ça aussi. C'est ça aussi parfois, Ryan Garcia, c'est des métaphores, une envie de créer des métaphores.
Il y a deux dentistes qui ont écouté le podcast qui ont fait oh, bon, j'arrête là. Désolé, à un moment donné, non.
Je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit.
Enfin, pour compléter un peu, je pense que autant Fanny que Guise, il y a un amour de la nouvelle scène aussi. Ouais. Il y a un amour de voir le stand-up se créer à Bruxelles comme il peut se créer aux US. Je vais pas parler Paris parce que Paris c'est très compétitif. J'ai de l'impression que j'ai à part dans certains comedy clubs.
C'est souvent, ouais, souvent ce qu'on entend. Ouais.
Dans l'atmosphère. Enfin, moi, les expériences que j'ai eues à Paris étaient trop cool, mais bon, je suis pas allée partout. Je suis allée dans les endroits où je me sentais à l'aise. Bref, avec des gens où j'étais à l'aise. Et il y a un truc aussi, là, à Bruxelles, je crois que c'est le meilleur moment, parce que c'est fou ce qui est en train de se passer là à Bruxelles. Enfin, pour les gens qui sont en dehors de ça, je pense que ça se voit pas tant que plutôt juste ils voient un bar qui commence à faire une scène de stand-up alors que pendant des années t'étais là, mais pourquoi ? Et aujourd'hui à Bruxelles, il y a vraiment une nouvelle scène qui se crée avec des gens qui ont peut-être leur petite clique ou des trucs, mais il y a quand même une bienveillance qui reste, qui est super agréable. Et je pense qu'autant Fanny et Guise ont aidé à faire en sorte que ça se crée, et avant eux il y a eu Dan Gagnon qui a fait énormément, avant eux il y a eu enfin il y a plein de choses qui se créent en ce moment, et c'est super agréable à voir. Et c'est, il y a un truc aussi où effectivement dans le stand-up tu pourrais t'inquiéter que d'un coup il y ait plein de gens qui arrivent et que t'es plus à ta place, mais il y aura toujours de la place, je pense, parce que personne n'a le même humour. Enfin, si clairement, moi, je suis une pâle copie de Fanny qui est une pâle copie de Blanche Gardin, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est juste qu'on est des femmes qui parlent de choses dures, donc on est la même personne.
Pour ceux qui sont pas bons sur le second degré, c'est du
second degré. Oui, c'est du second degré. En même temps que je disais, j'arrêtais pas de faire des guillemets entre les trucs pour faire
comprendre. C'est que l'audio. Mais du coup, grâce à ces deux personnes, vous arrivez dans le stand-up. Comment se passe votre première scène ? De quoi vous parlez ? C'est où ? Je veux tout savoir. Oriane, ta première scène.
Première scène, 13 mai 2019 à la Boule Rouge, avec le What the Fun, c'est pas des couilles. C'était ma première scène, c'était à l'époque, le What the Fun avait un plateau What the Fun à la Boule Rouge, près de Brouckère, qui était tenu, enfin MC'sé par Bénin. Et c'est ma première scène, donc en 6 minutes, le What the Fun à l'époque était vraiment très situé nouveau dans le What the Fun sur un plateau où normalement les humoristes font 12, toi tu en fais 6. Et donc j'avais préparé en 6 minutes, il faut savoir que je suis quelqu'un qui fait tout en dernière minute, donc c'était un lundi 13 mai. Sachez que j'ai écrit mon 6 minutes le samedi matin. Et puis le dimanche après-midi, j'ai réouvert mon document et j'ai tout supprimé parce qu'en fait tout était nul à chier, vraiment nul à chier, nul à chier. Et donc j'ai réécrit quelque chose et j'étais pas confiante parce que c'est bizarre en fait d'avoir, tu sais, quand tu regardes autant de stand-up que tu vois des blagues, tu les entends les blagues, mais après quand c'est toi qui dois les écrire, tu sais pas du tout te projeter en fait. OK, oui, là j'ai un texte, mais comment est-ce que je vais arriver à le faire devant des gens et tout quoi. Et en fait, je suis montée sur scène, j'ai la vidéo où j'ai mes feuilles en main, et on me voit trembler, ma main tremble un petit peu, mais je parle, et moi-même, quand je regarde encore là maintenant cet extrait de ma première scène, je me dis, waouh quoi, je sais pas d'où est venue cette confiance et cette aisance, et vraiment, ma première scène, j'ai été particulièrement allée sur scène, donc stressée évidemment, mais ça a été vraiment un compliment et une qualité qui m'a été attribuée dès le début par beaucoup d'humoristes, en tout cas à Bruxelles, dans le What the Fun et tout ça, qui me disaient c'est fou quoi, on dirait pas du tout que c'est ta première scène. Après je pense que c'est aussi parce que j'ai déjà fait de l'impro, j'ai déjà fait du théâtre, donc j'ai déjà été habituée à parler devant des gens et je suis très habituée à parler à des gens en général. Je suis quelqu'un de vraiment très très extraverti, donc pour moi il y a vraiment pas de souci avec ça. Et le delivery des vannes n'était pas si mauvais quoi, vraiment pour une première scène. Quand je regarde la vidéo encore maintenant, je me dis c'était pas si mauvais quoi. Et alors de quoi j'avais parlé, ouais, je me souviens que ma première vanne de stand-up, c'était une vieille référence au Fight Club. C'était nul à chier, je l'ai plus jamais refaite d'ailleurs, sachez-le. Mais sinon j'ai des extrêmement bonnes vannes, mais pour moi j'ai une bonne vanne qui est vraiment très très bonne parce que je l'ai écrite pour mon premier 6 minutes et je l'ai encore maintenant quoi. Mm-hmm. Et donc pour moi je suis convaincue que ben, ça c'était sur le 6 minutes, j'avais quand même réussi à écrire au moins une bonne vanne quoi. Et sinon de quoi ça parlait, j'ai directement parlé moi dans mes sketchs. Ça a été directement à l'époque, du coup je travaillais dans un restaurant comme je disais là tantôt. Et ben mon premier sketch ça a été sur le fait que j'étais une meuf serveuse dans un restaurant et que j'allais près d'une table de trois types qui en avaient 50 ans, et il y en a un qui me dit et toi t'as quel âge? Ah t'as 20 ans. Ah ouais, c'est un petit peu trop jeune pour moi. Et moi je l'ai regardé et je lui ai dit mais vous de toute façon vous devez avoir quoi, 50 ans? Ah ouais, c'est beaucoup trop vieux pour moi ça de toute façon. Ça a été ma première vanne féministe. Wayo, moi je tapais dans le truc directement. Maintenant franchement j'ai directement écrit sur moi et je me suis directement rendu compte que c'est ça qui me plaisait.
Cool. Et toi Lola, première scène?
Moi ma première scène ça s'est très bien passé en vrai. Moi j'étais à l'open mic du Kings of Comedy, ouais, le 4 octobre 2020, pense bien, oui c'est ça. Et c'était vraiment cool. Exceptionnellement c'était pas Bilal, le grand ponte de l'open mic, qui faisait la présentation, mais Ino, que je connaissais pas du tout, mais que j'ai trouvé extrêmement drôle. Et il est extrêmement drôle. Je pense que t'as fait un épisode avec lui.
Oui. Ah, je l'ai fait en deux parties, parce qu'il a beaucoup de choses à raconter.
Oui, c'est un homme,
et que c'est le meilleur d'entre nous, niveau humoriste et niveau
sans
personne.
Doute.
Et parce que clairement son nom n'a pas été droppé là tantôt quand on disait des humoristes de ouais, putain de talent et qui ont une putain de carrière là maintenant. Qui, Ino JP, c'est un type en or, quoi. Vraiment, ouais, c'est un type qui, lui aussi, il adore la nouvelle génération aussi. Ouais. Et il a vraiment ce truc de... c'est notre grand frère, quoi. Il adore offrir la chance à des gens. Moi, il m'a déjà aussi offert des premières parties, pas payées non plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment des expériences trop bien, quoi. Où, en fait, vraiment, tu te dis... t'as Ino JP qui t'envoie un message, qui te propose de faire la première partie au TTO. Et t'es là en mode... Ah ben oui, oui,
toi aussi, en
décembre, on est... Et c'est incroyable, quoi, vraiment, cette volonté de... Il veut faire jouer des gens, et il fait pas jouer tout le monde, il fait pas jouer n'importe qui, il fait jouer des gens qu'il a quand même envie de voir dans sa première partie, tu vois.
C'est une main tendue, quoi.
Ouais. Donc, ouais, non, c'est vrai que Ino JP, qui a été MC de ta première scène.
Oui, oui, j'ai plein de souvenirs, en fait, de cette première scène, parce que déjà, j'apprends que je passe dernière... ce qui est très rare pour une première scène, mais ce qui s'est passé en fait, c'est que Fanny Rué, on en a toujours la même, hein, elle devait arriver tard, et elle m'a dit non, mais j'ai envie de la voir la petite. Et du coup, elle est arrivée super tard. Moi, je me retrouve à être dernière, mais je flippe ma race, surtout que je vois des gens que je trouve très talentueux et très drôles qui passent avant moi, genre Adèle qui passait 5e pour le coup, ou 4e, je sais plus, parce qu'on est 6 sur un plateau en général. Et moi, j'étais 6e. Adèle qui passe, qui fait un super passage, mais Adèle, faut savoir, c'est quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même, et il sort de scène et il se prend la tête dans les mains et se dit j'ai fait un passage de merde. Et moi je le regarde comme ça, genre c'est ma première scène, et je me dis c'est ça un passage de merde, genre, alors qu'il avait fait rire tout le monde, ça allait très bien, il était super efficace. Bah Adèle quoi, genre, il est toujours super efficace, et je l'ai très rarement vu bider. Et puis derrière, mais lui c'est vraiment genre s'il y a une virgule qui est pas au bon endroit, genre il va se dire putain j'ai oublié cette blague, fait chier, et voilà. Et moi je me dis mon dieu, mais je vais bider de ouf. Mais heureusement j'avais ramené toutes mes potes dans le public. Il n'y avait pas que mes potes, mais c'était super cool. Et le fait que Fanny soit là et d'entendre, parce que Fanny rigole très fort, d'entendre sourire sur les bonnes vannes, le un truc comme ça, j'ai la voix cassée donc ça fonctionne pas très bien. Et j'ai un très bon souvenir de cette scène. Moi je parlais de harcèlement scolaire, donc je parlais de ça en première scène, et c'est des blagues que je fais encore beaucoup aujourd'hui, certaines. Maintenant en fait j'essaie justement, parce que mon personnage a un peu changé et que je suis assez différente dans la manière dont je parle. C'était trop littéraire au début, genre comme je suis de base quelqu'un d'assez littéraire, et genre j'écrivais avec beaucoup trop de frioritures et de trucs. J'essaie de faire un texte un peu plus direct, mais il y a plein de vannes que j'ai gardées de ce premier passage. Passage que j'ai rodé pendant longtemps,
Et en fait, c'était drôle parce qu'au début, je l'ai fait quelques fois et je l'ai abandonné pendant tout un temps. Puis après, et surtout, je partais du principe de c'est mon premier texte d'office, il est pas bon et dans 6 mois, je vais me dire c'était de la merde. Et en fait, je l'ai rechecké, je me suis dit, mais en fait, ça va. Et même reprendre des blagues que t'as pas faites depuis longtemps, c'est super agréable par moment parce que t'as un renouveau dans ton delivery, t'as un renouveau du public, la réaction qu'ils font.
Et puis, tu trouves aussi des nouveaux points de vue, ouais, et des nouvelles prémices, des nouveaux trucs. C'est pour ça qu'il faut jamais jeter un texte, jamais, ouais, jeter des blagues, quoi. Écrire tout ce qu'on pense, et d'un côté écrire tout, oui, souvent, pas nécessairement tout non plus, mais écrire un maximum et ne pas jeter,
jamais,
quoi,
jeter rien.
Ne jamais jeter, parce qu'il y a un moment où tu vas penser à ça ou quoi, et en effet, comme tu dis, parfois tu lâches un sketch pendant un temps parce que t'es en train de roder quelque chose de neuf. Et puis tu reviens sur un texte d'avant et en fait là tu te rends compte, hey, mais putain, en fait là-dessus il y a trop moyen de faire une blague là-dessus.
Ouais.
Et donc c'est vrai que ça, c'est le stand-up, c'est en constante rénovation de tes propres sketchs, quoi, parfois, quoi.
Puis, ouais, tu les vends mieux avec l'expérience aussi, donc des fois quelque chose qui n'a pas ri, c'est pas la vanne. Des,
ouais,
fois
c'est,
enfin, ouais, il y a tellement de trucs qui sont en jeu, c'est ta vanne, ton delivery, la façon dont tu te comportes, tu te tiens, les gestes, les mimiques, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, donc des fois tu l'as juste mal vendu au début parce que, oui, t'avais pas cette aisance que t'as acquis après, donc tu l'as refait plus tard avec un autre angle, un autre point de vue ou juste une autre façon de la dire, et tout d'un coup ça devient, ouais, ta meilleure vanne et tu dis waouh.
Il y a un truc que je trouve vraiment bien et ça je le dois à... Il y a deux bouquins qui s'appellent How to Write Funny, je pense, et The Comic Toolbox, qui sont des bouquins en anglais mais qui sont super utiles, je trouve, quand tu commences, quand tu continues, c'est même parce que j'y reviens souvent par moments où j'ai juste la page blanche parce qu'il y a des exercices et il y a des trucs qui parfois t'as une impulse, ce qui t'aide à débloquer et c'est super agréable à faire parce que tu délègues le fait d'avoir une idée à un bouquin et derrière tu parles dans tes propres trucs. Mais il y a un truc qu'ils disent et qui est très vrai, c'est que chaque humoriste ou chaque personne qui essaie d'écrire quelque chose de drôle a deux personnes en lui, l'éditeur et le clown. Et souvent il y a un des deux qui s'exprime trop. Et il faut savoir, genre, quand t'es en phase d'écriture, et il faut savoir laisser ton clown s'exprimer à fond pour écrire tout ce que tu peux, et puis après tu lis tout ce que t'as écrit, et l'éditeur il va sélectionner 2 blagues, et puis après, tu vas sur scène, ou une dizaine de blagues, et puis après tu vas sur scène, tu dois trouver le bon truc entre ton clown et ton éditeur, et puis tu relaisses ton clown parler pour le delivery, plein de trucs, et puis l'éditeur il recheck ce que t'as fait, et l'éditeur il va choisir une vanne qui a fonctionné. Et c'est vraiment tout le temps ce travail là, et je le trouve. C'est frustrant et super intéressant à la fois. Et en même temps, en fait, parfois l'éditeur est trop dur. Du coup, moi j'ai plein de textes, plein de trucs que j'ai écrits au tout début qui sont plus des idées que des vannes. Et je me suis dit, mais non, mais je peux pas parler de ça, c'est nul. Et puis un an plus tard, je regarde et je me dis, ah, mais en fait, c'était une bonne idée de parler de ça, mais c'est juste pas la bonne manière de l'aborder. C'est juste pas, il faut que je tape un petit peu plus de clown dedans, et puis après, ce sera bon, parce que là, c'est pas drôle, c'est juste triste. Ce qui arrive souvent pour moi, d'écrire des choses, je me dis, c'est pas drôle, c'est juste, et j'ai un dossier qui s'appelle comme ça.
C'est vraiment un bon conseil, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui soit veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés et débutent. Ne jetez rien.
Ouais.
Il y a la blinde de trucs que j'ai écrit, je me dis c'est de la merde en boîte, et des fois tu reviens dessus 3 mois, 1 an, 4 ans après et tu fais mais il y a de l'idée, il y a quelque chose, et en fait c'est pas le bon moment pour le dire. Si des fois des choses que t'as pas encore digérées, t'es pas encore assez à l'aise pour le dire devant un public, ou juste t'as pas trouvé le moyen, et en fait tu vas le trouver peut-être 4 ans plus tard ou peut-être dans 10 ans quand tu vas écrire ton deuxième spectacle à l'Olympia, on sait pas. Mais du coup, après cette première scène, comment ça s'est enchaîné pour vous?
Moi de mon côté, donc c'était en mai, et en fait normalement j'étais censée avoir une scène en juin avec le What the Fun aussi, et donc j'étais vraiment là, waouh, bien, c'est fou, ok, très bien, j'ai déjà une scène par mois et tout, vraiment à l'époque c'était incroyable. Et en fait malheureusement c'était une scène qui était faite à Los Amoal, et en fait il y avait une captation de la RTBF ce soir-là, et donc le What the Fun m'a gentiment dit, on va gentiment donner ta place à quelqu'un d'autre, ce que je comprenais bien évidemment. Et donc en fait quand je me suis fait retirer de cette line-up, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, ah, bah, comment ça va se passer, parce qu'en juillet, août, il n'y avait rien, il y avait moins en tout cas en 2019.
C'est beaucoup plus calme déjà, beaucoup même encore calme. Maintenant, c'est plus calme.
C'est ça, et puis moi là maintenant ici, là cet été, je joue beaucoup uniquement au Kings of Comedy Club. En 2019, je n'avais jamais mis les pieds sur la scène de Kings, donc ouais, j'étais un peu stressée d'un côté, je me disais, bah ouais, on verra bien. Et puis bah là il y a eu ce truc où mes parents m'ont gentiment demandé, ok Ariane, tu vas faire quoi maintenant, parce que ça fait un an et demi qu'on te laisse tranquille, maintenant qu'est-ce que tu vas faire, et en fait ils m'ont mis un peu la pression et ils m'ont dit oui, et puis j'étais là, ouais, mais le stand-up, et ils étaient là, ouais, t'as fait une scène, t'as fait 6 minutes, t'as été payé 36 balles, t'as un loyer, tu vas pas pouvoir, enfin il va falloir faire quelque chose quoi. Et donc mes parents m'ont gentiment demandé de faire quelque chose de ma vie et j'ai commencé des études en journée, enfin des études normales quoi. Et en fait, j'ai continué à mettre mes disponibilités, what the fun, you rire, tout ça dans les collectifs et tout ça. Et en fait, ça petit à petit, fin 2019, de septembre à décembre, ça augmentait graduellement. En fait, au début, j'avais une scène par mois, puis en septembre, j'en avais eu deux, je pense. En octobre, j'en avais eu deux. En novembre, je pense que j'en avais eu trois. En décembre, j'en avais eu trois, un truc du style. Et c'est par mois, quoi, tu vois. Et, mais j'étais là en mode, c'est incroyable, c'est fou. C'est vraiment, c'est fou, quoi. Et puis, je suis arrivée en janvier. En janvier, j'avais pas fait de scène du tout parce que j'avais envie de me concentrer à fond sur mon premier blocus vu que j'avais complètement foiré mes études avant. Et en fait, en février, là, c'est.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'était la folie, quoi. J'avais 6 dates pour février. Mars, j'en avais genre aussi 6 ou 7. Et puis en fait, mars est arrivé et confinement. Et donc là, ça a été assez compliqué parce que je me suis vraiment vue progresser petit à petit. Et je me voyais vraiment, waouh, ok, attends, si en février j'en ai 6, mars j'en ai 7, waouh, ça va continuer à tomber, quoi. Et en fait, le confinement est arrivé. Et donc, j'ai quand même été assez contente parce qu'on a continué quand même à me contacter pour des projets. Pendant le confinement, plein de gens ont essayé des projets sur internet, c'est ça, des trucs, on a fait du stand-up en Zoom. C'était une galère, mais c'était assez intéressant quand même, quoi, tu vois, parce que moi, c'est pas, là aussi, une fois, c'est pas l'expérience, c'était pas ma meilleure scène, évidemment, vu que j'étais sur mon canapé devant mon ordinateur, mais ça m'a permis de, pour ce jour-là, j'avais pas envie de faire un sketch que j'avais déjà écrit, ça n'allait avoir aucun sens de le jouer derrière l'ordinateur. Du coup, j'avais écrit une chronique à ce moment-là, ça passait plus. Et j'avais beaucoup apprécié ce truc. Et en fait, souvent, là, maintenant, quand les gens me demandent, ouais, t'as commencé quand? Et je dis, en 2019, juste avant le confinement, ça va, ça n'a pas été trop dur. Bah oui, ça a été dur parce que ça a été dur pour tout le monde qui a été considéré comme non essentiel, de toute façon. Mais franchement, moi, je ne l'ai pas si mal vécu que ça, dans un certain sens, parce qu'en fait, j'étais nulle part, j'étais personne, j'étais nulle part, donc rien ne m'a freiné. Les gens me disent, ouais, mais t'as été freiné. Bah non, j'étais personne, je suis encore personne. Même si là maintenant, il y a encore un truc, personne ne me freine, vu que, enfin, c'est bizarre, mais pour moi, je suis très au courant que je n'ai pas été freinée, quoi. J'ai des amis qui ont le même âge que moi, des humoristes, quoi, qui pour eux, le confinement, c'était un enfer, ils n'ont pas pu jouer ou quoi. J'étais là, ouais, mais t'es pas connu non plus, donc tu vois, c'est compliqué, quoi. Et puis, en fait, le confinement s'est levé, et en fait, là, je pensais que ça allait mettre du temps avant de se remettre en route et tout. En effet, ça, c'est au niveau des règles et tout ça, ça a pris du temps. Mais moi, au niveau de mon agenda, ça s'est bien goupillé. Et puis là, maintenant, franchement, je suis assez contente. Là, ici, c'est l'été, donc en été aussi, moi, je me repose aussi un petit peu plus. Mais en tout cas, là, ici, l'année que je viens de vivre, avec du coup en plus mes études à côté de ça, je passais des journées où je passe la journée en auditoire, et puis le soir, je vais sur scène, et puis le lendemain, je reviens en auditoire et je suis claquée, et le soir, je vais sur scène. Et franchement, cette année, j'ai vécu des semaines incroyables où parfois, il y avait pendant toute une semaine, je jouais pas, et puis pendant 2 semaines d'affilée, je jouais tous les soirs, quoi. Et donc c'était vraiment hyper intéressant. Et là ici, j'ai trop hâte de septembre qui arrive, parce que du coup j'ai le spectacle, parce que du coup j'ai d'autres projets avec d'autres scènes et tout, et j'ai trop hâte que ça reprenne, et j'ai trop hâte. Mais je suis assez confiante bizarrement parce que Je pense que vu que j'ai pas énormément confiance en moi et énormément confiance en, au fait que bah, un jour je percerai, je suis assez à l'aise avec le fait de me dire bah ouais, à l'aise quoi, petit à petit, peut-être qu'un jour je ferai mon lit, on verra bien.
Et donc ça s'est passé comment, toi, Lola, après ta première scène ?
Donc après la première scène, je me rappelle plus si j'en ai fait d'autres, mais très vite, il y a un nouveau confinement de l'art qui s'est passé, et des salles de spectacle et des restaurants. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé un taf aussi à ce moment-là en communication politique, ce qui était un milieu très 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 demandant, et j'ai passé les 9 premiers mois en confinement à travailler que là-dessus. J'ai vraiment quasi pas écrit pour le stand-up à ce moment-là. Et entre-temps aussi, je m'étais inscrite forcée par une personnalité de l'humour belge qui m'a envoyé un message en disant « Il faut que tu t'inscrives au Next Prince of Comedy, il n'y a que 3 meufs inscrites sur 60 personnes !» et qui était vénère de ça. Et j'étais là « Mais meuf, j'ai fait 3 scènes, genre je peux pas m'inscrire à ça. » Et elle m'a un peu forcée, comme pour ma première scène, hein, elle m'a forcée aussi à m'inscrire à un open mic. Et tant mieux, parce que quand du coup on est sorti enfin de ce nouveau confinement, j'ai pu me remettre à faire quelques scènes. Je pense que j'ai fait un stand-up in the park et une autre scène au Circle Park ou un autre truc. Et puis d'un coup, Next Prince. Donc j'ai passé un pool de les sélections et c'était vraiment ça qui a régi un peu les mois qui ont suivi, parce que c'était, comme j'ai dit avant, il fallait écrire à nouveau du nouveau matos tout le temps. Ça me mettait dans un état d'anxiété pour le coup, mais incroyable. J'ai adoré le faire, mais en même temps, je le referai plus parce que c'était tellement de stress tout le temps. Même en soi, je suis arrivée en finale, donc j'ai plus grand chose à gagner du Next Prince parce que c'était déjà un step que je m'attendais pas à atteindre et qui m'a permis énormément de choses. Déjà, quand t'arrives en finale, bah, ça veut dire qu'au moment où j'aurai une heure, j'ai gagné le droit de demander à Kouz, donc Cédric du Kings of Comedy, de faire mon spectacle chez lui. Maintenant, honnêtement, à partir du moment où t'as un humoriste qui joue souvent, ou Kouz t'as déjà vu, ou tu prouves que t'as la présence et t'as le matos pour faire une heure, c'est possible de jouer au Kings. Le Kings, ça reste quand même un lieu assez accessible si tu taffes suffisamment. Et je suis sortie de ce concours, j'avais 30 minutes de matos à chaque fois qui étaient des nouveaux trucs. Il y a quasi plus rien en fait que je rôde en ce moment de ça. J'ai réécrit beaucoup de choses et j'ai aussi fait un truc, c'est récupérer plein de petites vannes à gauche à droite dans tous les thèmes machin pour créer des 12 minutes, des 20 minutes qui sont plus punch que ce que je faisais à la base, qui est beaucoup de storytelling où j'avais pas la présence, j'avais pas le regard d'éditrice justement, où je pouvais savoir si une vanne allait fonctionner ou pas avant de monter sur scène. Et j'avais très peu d'occasion de les tester quand je faisais le Next Prince. Je testais une fois la veille ou un truc comme ça et c'était super, ça m'a beaucoup construite. Et même d'avoir des retours de gens du milieu, ça c'était trop cool. Et ça m'a permis aussi que les gens sachent qui je suis. Parce que d'un coup, moi si j'avais commencé, ça m'a fait un espèce de coup d'accélérateur, parce que d'un coup, ben, j'avais cette petite étiquette de t'as joué devant plein de gens. En général, les gens qui viennent voir le Next Prince, c'est des gens qui sont intéressés par l'humour, c'est qui sont des consommateurs, qui ont envie de voir c'est qui les nouvelles personnes du stand-up, parce que c'est un concours qui a été gagné par Guise, ouais.
Si,
par Guise, par Fanny, par même les gens qui sont arrivés
en Gaëtan Desfarrières, ouais, Lorenzo Mancini,
énormément de gens, Laura Lone,
Denis Richir aussi,
Étienne Tsar qui l'a gagné aussi, non, je sais plus,
je ne sais plus,
je suis pas sûre, mais bref,
Laura Lone,
enfin bref, plein de gens qui aujourd'hui sont plus ou moins en train de percer ou ont déjà percé. Donc ça c'est très cool. Et après j'ai eu la chance que j'ai eue, c'est aussi comme des gens avaient cette étiquette là sur moi, j'ai pu facilement rentrer au What the Fun, j'ai pu facilement j'avais pas trop besoin de forcer, et j'ai eu une énorme chance une nouvelle fois que des gens m'appellent pour que je vienne faire des scènes, alors que moi j'étais là mais en fait vous êtes sûr? Je pense que peut-être que j'ai fait ça, mais je suis pas sûre. Et je pense qu'on m'a laissé avancer aussi, pas parce que j'allais gagner ce concours, mais parce que vous avez vu un truc en moi qui était, et c'était plutôt cool, parce que il y a des quarts de finale, des huitièmes de finale où je sais que j'avais cet atout de la nouveauté, et même si j'étais pas clairement pas prête à faire un spectacle comme Lorenzo l'était au moment où il a gagné, c'était un gros encouragement et une grosse tape dans le dos en disant vas-y continue. Et j'ai eu la chance d'être appelée, ça on m'a dit ne le dis jamais, mais ma première scène du What the Fun, je faisais même pas partie du groupe privé du What the Fun et je me sentais syndrome de l'imposteur puissance 1000, genre mais qu'est-ce que je fous là, alors que je connaissais des gens qui avaient le somme de ça justement. Mais maintenant ça, ouais, par contre j'ai dû beaucoup lutter justement avec ce syndrome de l'imposteur, de me dire j'ai mérité d'être là, c'est pas parce que j'ai encore des choses à taffer que j'ai pas le droit d'être sur scène. Et parce que tout le monde a encore des trucs à taffer quand on monte sur scène.
C'est le principe.
Et ça m'a permis aussi de rencontrer un peu Parce que jusqu'à ce que je sorte du Next Friends, de sortir justement du Kings, qui est une scène en particulier, mais après le What the Fun, c'est trop cool. Il y a plein de scènes indépendantes qui se forment, il y a plein de gens qui font. Et ce que je fais aussi beaucoup maintenant, c'est que j'organise des scènes et ça me plaît beaucoup. Ça prend de plus en plus la forme d'un collectif, mais justement ce truc de il y a 60 mecs inscrits au Next Friends of Comedy pour 3 meufs, bah, en fait est venue une idée avec d'autres amis, eux, dans le milieu du stand-up. De se dire, bah vas-y, on crée un groupe privé Facebook avec que des meufs, et, ou en tout cas des personnes qui sont pas des hommes cis, qui, allez, je vais être la wokiste de service, mais qui veulent se lancer dans stand-up, ou qui veulent écrire, qui osent pas, et il y en a énormément, vraiment. Il y a plein de raisons pour lesquelles il y a moins de meufs que de mecs dans le milieu du stand-up. Moi, je suis encore en train d'essayer de réfléchir là-dessus. Je pense qu'il y a une question de représentation, mais pas que. On essaie de créer un espace safe, et ça s'appelle l'Atout Comedy Club maintenant, a priori. Avant, ça s'appelait La Touche Arme, en référence à un sketch de... Oh mon Dieu, j'ai oublié son nom. Jamel Comedy Club...
Amel Chabi.
Amel Chabi, ouais. Amel Chabi, qui, je me rappelle très bien du spectacle où elle dit, elle arrive en...
Elle se faisait tout le temps présenter au Jamel Comedy Club comme La Touche Arme du Jamel Comedy Club, et généralement, on ne disait quasiment que ça dans sa présentation.
Ouais.
Et donc, à l'époque... ça passait crème parce que c'était une des seules humoristes qui passait, ouais. Et donc on ne s'en rendait même pas compte, on faisait pas attention à ça, et que maintenant quand on dit ça d'office, enfin si tu dis ça c'est que t'es un gros lourd en fait, oui. Maintenant, et j'ai, heureusement, je veux dire que ça veut dire qu'il y a une évolution quand même, parce que si moi en tant que quelqu'un qui fait c'est la touche arme de la soirée, je fais mais c'est qui, t'as fait quoi les 10 dernières années?
Ouais, mais ça arrive encore, malheureusement, ça arrive encore beaucoup. Hein. D'un côté, je trouve ça hyper intéressant le fait que Lola, ici, là, en effet, elle fasse des scènes qui sont un peu étiquetées féministes, parce que du coup, c'est que des meufs. Après, moi, si je peux donner mon avis vraiment très personnel là-dessus, je trouve que parfois ça peut un peu desservir au stand-up, dans le sens où en fait j'ai l'impression. Mais après, ça, je pense que c'est malheureusement le combat féministe de nos jours. Actuellement, qui malheureusement parfois certains combats féministes desservent un petit peu à la cause dans sa globalité, dans le sens où en fait je trouve parfois que faire une soirée ou dire absolument que c'est une soirée que avec des femmes ou quoi que ce soit, ben en fait ça dessert un petit peu le stand-up, parce que pour moi un plateau de stand-up, on s'en fout de s'il y a autant de filles ou s'il y a autant de mecs ou quoi que ce soit. Alors j'apprécie énormément les organisateurs de soirées qui essayent de faire des trucs paritaires. Mais je trouve que ça ne devrait pas être une... Il y a parfois certains organisateurs qui se vantent peut-être un petit peu trop de faire des soirées paritaires, alors que pour moi ça ne devrait pas être quelque chose de se vanter, quoi. C'est un peu comme si tu te dis ah mais moi je suis quelqu'un de bien, j'ai jamais tué personne. Bah c'est normal en fait, c'est normal, hein. On est quand même, ouais, sur la logique des choses, quoi.
Mais l'avantage c'est que de faire des soirées uniquement féminines, c'est que ça rééquilibre un petit peu, et comme disait Lola, apparemment il y a vraiment des gens qui n'osent pas aller à des scènes où y a beaucoup moins de meufs, du coup c'est du positif. Après, je pense que l'objectif commun, j'espère pour tout le monde, c'est qu'on fasse des scènes qui soient paritaires, mais le fait de créer des scènes uniquement féminines, puisqu'il y a des scènes qui sont uniquement masculines dans les faits, ça crée un équilibre, j'espère en tout cas que c'est l'objectif commun, quoi.
Oui, et puis brûler les hommes aussi. Enfin,
ah, c'est ça, ok.
Surtout. On fait un méchoui à la fin de chaque scène qu'on fait où il y a un mec, enfin, la dernière fois, il a un peu crié.
C'est pour ça que t'en as fermé les fenêtres, que j'ai chaud, tu préchauffes en fait. Ok, cool.
Non, non, bien sûr, quand on crée un collectif comme ça et tout ça, il y a ces questions-là qui viennent, bien sûr. Mm-hmm. Et surtout que de base, c'était vraiment juste, voici un groupe Facebook, on se donne des moments où on a envie d'écrire ensemble, et comme ça, on peut parler aussi du fait que, c'est triste à dire, mais encore aujourd'hui, il y a des meufs qui se prennent des remarques sexistes sur des plateaux. Il y a des trucs qui se passent, et ça fait un espace aussi un peu de délestage, de ça m'a saoulé, je peux pas en parler d'habitude, mais là ça fait du bien, et puis on réfléchit ensemble, on se donne des tips, des trucs. C'est bien sûr quelque chose qui pourrait aussi arriver dans un truc paritaire où il y a des mecs et des meufs, mais la nécessité des espaces non mixtes par moment, c'est aussi de pouvoir parler des mêmes problèmes que tu rencontres, parce qu'il y a ça. Maintenant, le fait de faire une scène, je suis d'accord que ça doit pas être la finalité. Le jour où il y aura plus besoin d'une scène où il y a que des meufs, je serai la plus heureuse des personnes, mais en fait le truc aussi qu'on fait avec cette scène-là, où c'est tous les mois, et bientôt ça va être doublé à la rentrée, on va faire 2 scènes par mois, une à la Mer à Boire de Saint-Gilles, une à l'Adhésif à Saint-Josse, on remarque qu'il y a des sujets qui sont abordés, qui sont pas forcément abordés, qui sont un peu inhérents à la condition féminine, de, les agressions, les trucs et machin. Et le public est plus réceptif à ça. Il est plus capable de rire de ça. Donc maintenant, bien sûr, il faut les travailler. Et le but final, c'est de pouvoir en parler devant n'importe quel autre public. Mais ça donne une porte d'entrée pour parler de ça. Et il y a aussi le fait que, ça c'est un peu mon truc à moi de « told you so ». Genre, j'en peux plus d'entendre des personnes qui me disent « Non, mais il n'y a pas assez de meufs avec un niveau suffisamment bon que pour venir sur scène et commencer à faire des trucs. » Et dans ma tête, il y a des trucs qui se passent, qui sont à la fois... on a fait des plateaux, on a fait 4 plateaux, à chaque fois il y avait 6 à 7 personnes, et on n'a jamais fait un plateau où il y avait les mêmes personnes. Et c'était à chaque fois des soirées de qualité. Pour beaucoup de raisons, mais on n'a jamais eu un retour du public, on n'a jamais eu un bid, on n'a jamais eu un truc. Donc au bout d'un moment, peut-être que le public est chaud, peut-être qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu, peut-être que c'est cool, mais... Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas assez. C'était vrai peut-être il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, on ne peut plus utiliser cette excuse-là. Maintenant, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il y a moins de meufs. Il y a aussi le fait que les femmes sont plus sujettes au syndrome de l'imposteur. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas, mais c'est un truc qui, statistiquement, quand tu regardes les trucs, c'est plus le cas. Elles vont moins aller chercher les organisateurs, moins faire du forcing qui est parfois nécessaire, qui vont moins comprendre l'importance du réseau, qui ne vont pas oser se vendre. Et c'est aussi une manière de dire pour vous vendre, vous faites ça. Et c'est cool, et il y a aussi plein de choses.
Je pense qu'il y a un truc qui joue aussi, c'est que quand t'es une femme, de ce que j'ai entendu des humoristes que je suis, c'est que quand t'es une femme, t'es plus jugée sur scène que quand t'es un homme sur certaines choses qui des fois sont pas du tout liées au stand-up. Par exemple, je prends l'exemple de Tania Dutel qui parlait de ça, quand elle monte sur scène, elle essaie de se rendre moins jolie parce qu'on lui fait des commentaires sur sa tenue, sur comment elle se maquille, ce genre de choses. On ne m'a jamais rien dit sur comment je me suis habillé et sur comment des gens s'habillent, alors que des gens s'habillent très mal parfois. Mais
lui, il est trop chemin.
mais t'as jamais ce genre de retour, jamais sur une coiffure, sur un truc. Jamais je n'ai entendu ce genre de phrase. Ça n'arrive pas. Donc, ça d'office, c'est un truc qui doit jouer encore en plus. Mais du coup, c'est cool qu'il y ait des scènes. Mais espérons qu'on arrive à un moment où on n'a plus besoin de le faire. Ce serait cool, quoi.
Et un truc que tu as vécu probablement aussi beaucoup, Lola, et que toutes les meufs qui ont commencé le stand-up, et encore maintenant, malheureusement, ça arrive, c'est vraiment ce truc de... moi, j'ai eu beaucoup ça dans mes débuts, où en fait, on m'appelle et on me dit « Salut, j'ai besoin d'une fille sur mon line-up, est-ce que tu peux venir ce soir ?» Et en fait, au début, moi, en étant très naïve, parce que c'est mes débuts et tout, je suis là, oh, ok, trop bien, ouais, je vais venir jouer. Et en fait, il y a un moment où en fait, tu t'en as marre d'être la fille de la line-up, quoi, t'en as marre d'être la meuf, parce que c'est chiant aussi. Il y a quelques mois, j'ai joué, j'étais la seule meuf d'un line-up, ce qui ne me dérange pas, parce que j'ai l'habitude, en quelque sorte, c'est pas un problème. Et le MC dit, alors là, la prochaine, c'est une femme, elle va venir vous faire rigoler, et tout ça, et en fait, la façon dont j'avais l'impression d'être à une fancy fair et d'être, franchement, sans vouloir être méchante, j'avais vraiment l'impression d'être à une fancy fair et d'être un enfant trisomique où en fait la maîtresse vient et alors, prochain c'est un trisomique, on va tous être bien gentils avec lui, hein. Et en fait ça n'apporte rien, ça n'apporte rien du tout, et en plus de ça, ça sert à rien. En fait, je vais monter sur scène, j'ai des énormes tchouches, évidemment que les gens vont voir que je suis une meuf, enfin tu vois, il n'y a pas besoin de dire que je suis une femme, enfin tu vois, ça va se voir. Et puis qu'est-ce qu'on s'en fout, moi je vais pas regarder un film parce que l'acteur principal c'est un homme, ou parce que je m'en bats les couilles, tu vois, tu regardes parce que tu regardes. Et c'est vrai que c'est un truc qui a été très dérangeant, et c'est un truc qui est par contre très gratifiant, et c'est hyper triste que ça soit gratifiant. Mais c'est en fait à partir d'un moment où on t'appelle et on te dit j'ai envie de toi sur scène. Et là t'es là en mode waouh putain, on a envie de moi sur scène, on a envie de mon humour parce qu'on me trouve moi drôle. Et en fait t'es là mais en fait ça devrait pas autant me faire plaisir. Et en fait ça me fait très fort plaisir parce que comparé à tous les fois où on a dit j'ai besoin d'une meuf, quoi. Et donc c'est très gratifiant, et d'un côté en fait tu te dis c'est problématique en fait que ça soit gratifiant, tu vois. Mais bon, c'est vrai que là maintenant j'ai l'impression, en tout cas moi, pour ma part, ça m'arrive moins qu'on me dise j'ai besoin d'une meuf, et c'est un truc où les meufs l'ont trop vécu, quoi. Ce truc dont on a besoin d'une meuf parce que justement on a envie de paraître paritaire.
Mais du coup peut-être que la difficulté principale est peut-être de commencer le stand-up, de rentrer dans ce milieu là quand on est une meuf, apparemment ça a l'air d'être plus compliqué, qu'une fois qu'on est établi et que les gens savent qu'on est drôle, c'est plus facile. Que peut-être qu'il y a moins de freins, je sais pas.
Il y a moins de freins.
Par rapport à ce que vous dites, j'ai l'impression qu'une fois que vous êtes dedans, c'est bon, on vous appelle pour les scènes et tout. et vous n'avez pas peur d'aller, que rentrer ouais. dans le truc, ça a l'air plus compliqué quu'on est une meuf.
C'est ouais. ça. Et bah, puis... il y a une espèce de plafond de verre comme ouais, dans n'importe quel autre milieu qui est majoritairement masculin. En fait, c'est une fois que tu l'as percé, enfin, et ça veut pas dire percé de manière générale, mais une fois que tu as réussi à faire tes preuves et à rentrer dans le truc et à avoir des gens autour de toi qui t'appellent pour toi, ça me fait rire, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une scène et ça me fait rire parce qu'on me contacte, on me dit ça te dit de faire cette scène-là, mais c'était un peu genre last minute. Mm-hmm. Et je regarde, j'arrive dans la conversation Instagram et je vois que les messages au-dessus c'est eh merde, il nous manque une meuf! Chier! J'étais vraiment là. Et après, là, il y a une des personnes du truc qui m'a dit non, mais c'est cool, hein, t'as eu une scène parce que t'étais une meuf, c'était cool quand même. J'ai dit, les gars, programmez-moi parce que vous me trouvez drôle, pas parce que je suis une meuf. Genre, faites-vous si vraiment c'est ça le truc. Enfin, on va pas s'éterniser là-dessus parce que j'ai pas envie que ce soit le sujet du podcast.
Non, mais c'est intéressant.
Mais après, il y a aussi le truc de. Parce que oui, en fait, une fois qu'on est rentré dans le truc, parce que c'est ça, comme moi je dis, j'ai beaucoup vécu ce truc-là à l'époque. Là, maintenant, beaucoup moins, on m'appelle et on me dit je te veux. Toi sur scène, donc c'est un régal, mais il y a ce truc aussi parfois où t'es quand même toujours critiqué, t'es quand même toujours énormément comparé. En fait, j'ai l'impression, et la dernière fois j'en parlais avec Nikos et Sacha Ferra, ben justement sur un autre podcast qu'on avait eu ensemble, où à un moment je disais que ouais, pour moi, moi je suis très souvent comparée à des autres humoristes femmes, quoi, et c'est un enfer parce que. J'ai pas l'impression, et je sais que je n'ai pas le même humour, je n'ai pas la même approche ou quoi. Et ça m'est déjà arrivé même aussi qu'une humoriste vienne et qu'après un de mes sièges et qu'elle me dise, ouais, on parle de la même chose, quoi. Et puis, on fait exactement les mêmes blagues et tout, et puis je la vois monter sur scène et c'est pas du tout la même blague, quoi. Enfin, oui, on parle, c'est que, on va parler de beats toutes les deux, mais c'est pas du tout la même approche de beats, quoi. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu dérangeant, mais en fait j'ai l'impression que les meufs sont encore fort comparées entre elles et ça se remarque énormément. Si tu regardes France Inter, tu regardes les chroniques en dessous là, les commentaires de Fanny Ruet, c'est ouais ok, ouais c'est la nouvelle Marina Rollman, ouais c'est la nouvelle Farah, ouais c'est la nouvelle Florence Mendez, ouais c'est, et en fait c'était toujours comparé avec une autre meuf juste parce que ben oui en fait on a notre voix qui se ressemble un petit peu, on a une façon de parler qui se ressemble un petit peu, on a des sujets qui se ressemblent mais pas la même le même delivery ou les mêmes blagues de toute façon.
Et des fois le seul point commun c'est d'être deux meufs, c'est tout.
C'est ouais. ça, c'est ça. Et en fait ça c'est, je trouve que c'est quand même vachement problématique parce que ouais, parce que moi je déteste être rangé dans une case parce que c'est ça en fait le stand-up c'est on est tous au courant qu'on va faire des vannes, enfin le stand-up c'est faire des vannes, donc il y a vraiment un moment où tu vas pas pouvoir faire des vannes sur tout et n'importe quoi. En fait pour moi le stand-up c'est comme la musique, il y a partir d'un moment où la musique toutes les notes tu les as toutes les notes tout le monde les a utilisées, tout le monde les a agencées de leur manière, mais c'est ça en fait la base de la musique, c'est des notes. Et c'est juste que tu les agences d'une certaine façon pour que ça fasse toi ta propre musique. Ce qui fait que la musique ne s'arrêtera jamais, qu'on n'aura jamais les mêmes musiques en fait. On arrivera toujours à créer quelque chose de nouveau parce que c'est toujours un point de vue différent, une création différente. Et dans le stand-up, c'est la même chose. La base du stand-up, c'est faire des vannes. Et c'est normal qu'à un moment, on va faire une blague sur le célibat, que deux meufs, oui, peuvent faire un sketch sur le célibat. Tout comme Beethoven et Jules ont tous les deux utilisé un mi dièse dans leur son. Enfin, tu vois, c'est con. Enfin, vraiment, pour moi, c'est, je trouve ça tellement con de dire ça. Mais d'un côté, c'est tellement vrai, quoi. Tu vois, c'est oui, c'est normal qu'on ait parfois des mêmes sujets. L'originalité du stand-up, c'est la façon dont toi, tu vas l'amener, tu vois.
Oui. Ouais. Mais de toute façon, les gars aussi ont des sujets en commun, je veux dire.
Oui, mais c'est ça.
Et
c'est
on va moins faire la remarque, alors que pour le coup, tout le monde a des sujets en commun, je veux dire. Ouais. C'est d'autres façons d'aborder la bite, mais il y a plein d'humoristes qui parlent de leur bite, on leur dit jamais, ah, t'es un peu comme Guillermo Guis parce que tu parles.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est juste que moi aussi j'en ai une et que c'est un sujet.
c'est ça en fait. Et que parfois c'est juste un sujet qui est à ta portée de main et que tu peux ouais, là c'est vraiment à ta portée de main, mais du coup ouais, où tu peux ouais. juste creuser dessus quoi.
Moi j'aime beaucoup, moi j'ai eu deux fois, enfin la seule comparaison de meuf que j'ai acceptée dans ma vie, que on m'a comparé à une meuf, faut dire aussi c'était quelqu'un qui connaissait bien le milieu du stand-up, qui avait pas trop ces lunettes là et qui connaissait plein de stand-upers, et genre on m'a dit ouais tu fais un truc un peu, tu me fais penser à Sarah Silverman qui est genre une de mes, en plus c'est pas blonde qui m'a dit ça au feedback après une crise, mais juste après on fait un autre feedback en disant oh fais gaffe parce que le petit créneau de la meuf mignonne qui dit des trucs trash, il a déjà été pris par pas mal de gens hein. Et j'étais là et il m'a comparé à Laura Lone et j'étais là mais je fais absolument pas la même chose. Bravo Laura Lone, genre c'est génial ce qu'elle fait, mais elle fait des musiques, moi je fais jamais aucune musique à aucun moment. Enfin elle a un style oui où elle joue très fort sur le côté petite meuf mignonne et très belle et qui va dire des trucs super trashos, j'ai pas du tout ça, enfin j'estimais pas avoir ce truc là et c'était fou. Par contre Sarah Silverman, je suis tombée de ma chaise en me disant en plus c'est vraiment quelqu'un à qui j'ai envie de ressembler, ou c'est un de mes goats du stand-up, ou je la trouve brillante, c'est ouf Sarah Silverman. Mais et ouais, mais tout autre retour, j'étais vraiment, j'avais un peu le seum parce que j'étais bon bah pff. Oui, j'ai 2-3 vannes trash, mais là je viens de parler du fait de devoir se faire tester pour savoir si t'as un cancer du col de l'utérus ou pas. Je pense pas que je fais la même chose que Laura Lone, enfin genre c'est gentil. Et alors à ce moment-là, je fais la même chose que Guidry aussi, je fais la même chose que plein de gens, mais c'est ça m'a saoulé ce retour-là.
Donc deuxième conseil de ce podcast, arrêtez de comparer les gens entre eux.
Ouais, c'est un enfer.
Ça marche. est-ce que vous avez tenté les festivals d'humour et tout ça ou pas trop? Lola me fait le nom de la tête, Auriane pareil.
Non, moi j'ai un ami qui travaillait du coup un petit peu pour Avignon, qui m'a gentiment dit le 23 janvier, le jour de mes 25 ans, il m'a envoyé un petit SMS pour me dire que j'allais peut-être partir à Avignon. Et puis en fait, j'ai appris que je ne partais pas du tout à Avignon et que j'étais loin de partir à Avignon. Que... Mais en fait, les 9 humoristes qui sont partis, si les 9 ne partaient pas, oui, potentiellement, je pouvais y aller. Mais bon, il fallait que 9 personnes se désistent, quoi. Donc en effet, je n'étais pas prête d'aller à Avignon. Et d'un côté, c'est normal, j'avais pas encore vraiment annoncé aux gens qui font partie du stand-up et qui sont importants, on va dire comme ça. Je leur avais jamais annoncé que j'avais une heure de spectacle en route, donc c'est normal. Et puis j'ai essayé quand même un concours, le Next Prince, la même année de Lola, où moi je me suis fait éliminer à la première étape. La compétition a commencé, je me suis fait éliminer. Et c'est vrai que depuis les festivals, je pense que ouais, ça m'intéresserait quand même toujours. Je pense que ouais, si l'année prochaine on m'offre la possibilité de partir à Avignon ou quoi, évidemment j'y vais, quoi. Parce que je pense que ça devrait être un... Enfin, alors, du coup, quand je vois tous mes potes qui reviennent de la saison de cette année, pendant que moi j'allais arroser leurs plantes pendant qu'ils y étaient, c'est un enfer, quoi, mais bon.
Ça marche. Ouais. Toi, Lola, t'as fait le Next Prince et les autres festivals, pas trop?
Bah, en fait, après, comme j'ai dit, c'était un énorme moment de stress et très long pour moi, le Next Prince. Et quand je suis sortie de là, il y avait plein de concours, il y avait la Muriel Joke, il y avait le Festival de Rochefort, il y avait plein de trucs, et j'avais plein de potes qui ont participé, notamment Marine et Moana, avec qui on communique souvent là-dessus sur ces trucs en disant oh, c'est la deadline, et en fait. En sortant d'une expérience, je me suis dit, ok, c'est bon, là j'ai de la matière, maintenant il faut que j'arrive à en faire quelque chose, et j'ai envie d'être fière de ce que je vais présenter si j'y vais à un concours, parce que tu joues quand même devant des producteurs, devant des gens. Et aussi, en général, la finalité d'un concours, c'est d'avoir un spectacle et d'être programmé au festival. Moi, je me sentais pas prête, j'avais envie de prendre mon temps et de vraiment être contente, pas que ce soit parfait, mais juste savoir ce que je veux faire avant d'essayer d'en faire quelque chose. C'est très beau ce que je viens de dire, c'est incroyable, je suis vraiment un génie. mais donc non, mais l'année prochaine je sais que je vais me remettre à essayer de faire des concours, là j'en ai déjà 2-3 en tête, ou juste pour commencer à faire un peu de réseautage et essayer de faire des trucs, parce que ça sera ça aussi les concours, hein. On va pas se mentir. Mais oui, non, j'ai pas fait de festival encore.
Ça marche. Et Auriane, on a joué ensemble au Countdown Comedy Club, donc une scène anglophone à Bruxelles au Time Out Pub. Pourquoi cette envie de jouer en anglais?
I mean, you know, when I was a child, I was like, oh my god, this is so amazing. J'adore l'anglais, j'adore le stand-up, j'adore Dena, j'adore Serine, j'adore plein d'humoristes qui sont, ben, là pour le coup, les deux là sont trilingues. Français, néerlandais, anglais. Et en fait, moi j'ai fait donc les études que j'ai faites là ici pendant 3 ans, c'était en anglais. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour la langue. Et en fait, j'ai regardé aussi, enfin je regarde encore actuellement beaucoup de stand-up en anglais. Et en fait, je me rends compte que c'est la même chose sans être la même chose pour autant. Et en fait c'est trop bien, c'est trop chouette, j'adore. C'est très bizarre parce que en commençant à jouer en anglais, j'ai donc retrouvé le stress des premières scènes que j'avais il y a 3 ans, alors que là maintenant tu me demandes de jouer en français, allez, oui, évidemment t'as toujours un petit peu le petit stress avant de monter sur scène, mais je n'ai plus peur. En anglais je me chie encore un peu dessus, et en français je suis très à l'aise. J'ai beaucoup, si le public me répond ou quoi, je vais pas avoir de problème à réagir et avoir de la répartie. En anglais j'ai un peu plus de mal parce que je suis un peu plus concentrée du coup sur ce que vraiment je dis pour être sûre et certaine de pas faire de bêtises et de pas dire de bêtises non plus. Mais ouais, non, là ici j'ai pris une petite pause en anglais, mais j'ai envie de revenir vraiment là ici en septembre. J'ai déjà des On m'a déjà contacté pour me mettre déjà sur des line-up en anglais, là, ici, pour la rentrée. Et je pense que, ouais, là, ici, en septembre, j'ai vraiment envie de me lancer aussi. Et ça se trouve, un jour, mon spectacle, je le traduirai en anglais et je le ferai en anglais aussi. On sait jamais, mais c'est vrai que, ouais, je me verrais bien encore faire des scènes en anglais. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment très chouette.
Et toi, Lola, ça te donne envie de tester en anglais ?
Ah, moi, à fond, je trouve que... C'est drôle parce que j'ai déjà, je sais plus pourquoi, pour une raison, je devais faire une scène un soir et puis j'avais des potes à la maison, dont certains uniquement anglophones. Je me suis amusée, en fait, je voulais répéter mon texte, mais je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer de le faire en anglais, et je traduisais dans l'instant parce que je suis un peu bilingue. Mais non, j'aimerais beaucoup faire, et je me suis rendu compte que mes blagues, je pensais pas qu'elles allaient faire rire si elles étaient en anglais parce que c'est pas la même agencement de mots ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai bien aimé et je trouve que l'anglais, en plus, c'est une langue beaucoup plus directe que le français. Il y a moyen de beaucoup plus jouer sur le rythme et des trucs comme ça, et avoir moins de frioritures dans tout ce genre, je pense que blablabla, et ça force à faire un truc très direct. Et même, oui, je consomme énormément de stand-up anglophone, voire que ça par moment, parce que je trouve qu'ils sont one step ahead, et en même temps, tout ce qui se passe aux États-Unis en général, ça se passe 2 ans plus tard, enfin culturellement, hein. Pas pour, j'espère que Trump va pas arriver à Bruxelles. Quoique, est-ce qu'au final il n'y est pas déjà avec Tom Van Grieken ? Pardon,
c'était l'instant politique.
Ça dénonce, voilà, ce sera le seul. Mais non, ouais, j'aimerais beaucoup faire du stand-up en anglais aussi.
Ok, ben, moi je te le conseille vraiment parce qu'en plus je trouve qu'au Countdown ils ont vraiment fait un truc cool. Et pour le coup, j'ai parlé dans un podcast avec Niamh qui organise, podcast en anglais.
Niamh Maroney,
qui a, avec Tristan Barb, ont essayé vraiment de faire une parité, de faire en sorte que tout le monde se sente bien, qu'on puisse pas aborder tous les sujets possibles et imaginables, qu'un lieu où tu peux vraiment tester des nouvelles choses, et si tu te plantes complètement, bah t'es rappelé le mois d'après, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est tellement chouette.
Ça, c'est cool.
Donc voilà, si vous parlez anglais, que vous êtes de passage par Bruxelles, allez au Countdown Comedy Club. Ça se passe au Time Out Pub, tout près de la Bourse. N'hésitez pas. Je voudrais vous demander, quelle place a le stand-up aujourd'hui dans vos vies ? Est-ce que c'est toute votre vie ? Est-ce que c'est 90%, 70% Quelle place ça prend ?
Elle a la place du manque de sommeil, je pense. Moi, j'ai un taf à temps plein à côté. Enfin, comme j'ai dit pendant, je sais pas si je l'ai dit, mais oui, avant je travaillais en com politique et je faisais entre 2 et 5 scènes par semaine en même temps. C'est vrai, j'ai quitté ce milieu-là aussi pour cette raison-là, c'est parce que c'est beaucoup d'heures sup et beaucoup de trucs, donc je me suis dit non mais c'est mort, en fait, mais même là en Belgique il y a une campagne politique qui s'annonce et il faut oublier toute ta vie à côté, et le stand-up a clairement été un des trucs qui a fait que je dois démissionner de ce travail et trouver un autre qui soit moins demandant. D'ailleurs c'est Bilal qui m'a dit à un moment ah bon, t'as pas encore démissionné, trouve-toi un autre taf. Il connaît mon ancienne employeuse, je crois que c'est sa cousine en plus, donc j'espère qu'elle sera, si elle écoute ce podcast, qu'elle sera contente de savoir que c'est à cause de Bilal et uniquement à cause de Bilal et du burn-out que j'ai démissionné. Et puis maintenant je travaille j'ai toujours un taf à temps plein mais qui est plus chill, on va dire, en termes des enjeux, parce que c'est plus de la politique, c'est que je travaille pour une bière et un lieu culturel où je fais de la com sur les réseaux sociaux. Ça s'entrecoupe bien avec mon truc. Je pense que je pense que c'est 50% de ma vie, ouais. Enfin, je fais un double temps plein, quoi. Parce que même, je dors très peu en ce moment. Vraiment, parce que, genre, quand tu fais une scène, ben, tu rentres, il est 23h. Enfin, 23h si t'as pas bu un coup après, ou 1h du matin si t'es resté un peu ou t'as voulu voir les gens, ce qui est cool aussi à faire, parce que tu discutes, tu fais des blagues, t'as des idées, t'as des choses. Le soir, souvent j'écris, enfin j'essaie d'écrire. Sinon, je fais du montage pour faire des vidéos pour les réseaux sociaux. Je vais aller voir des scènes aussi par moment parce que j'ai envie d'avoir de l'inspi. Voler des blagues à des gens, c'est faux. Mais juste voir du stand-up, moi ça m'inspire souvent. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent pas voir du stand-up quand ils essaient d'écrire parce que ils ont peur de voir des blagues qu'ils auraient aimé faire. Moi, c'est vraiment un truc où. Quand j'ai un bug, en général, le spectacle que je regarde, je regarde du John Mulaney et ça me débloque parce que je sais pas, ce gars m'inspire beaucoup, même si je fais pas du tout la même chose que lui. Du coup, le stand-up a une énorme place, un peu trop par moment parce que c'est vite fatigant et parfois j'ai besoin de prendre des gros breaks de tout parce que sinon je pète un câble. Mais au plus le temps ira, au plus le stand-up va me permettre de gagner de l'argent. Et là, c'est un peu le step que j'essaie d'avoir, c'est je fais de moins en moins de scènes où je sais que ça va pas être payé à part si c'est du test. Parce que aussi, il faut se donner la valeur que t'aimerais avoir pour. Attends, je parle comme une start-upeuse. Il faut se donner la valeur que t'aimerais avoir parce que moi, j'ai envie d'en vivre un jour, quoi. J'ai envie que ce soit mon taf à temps plein, écrire des blagues, pas que monter sur scène, mais
dans mon taf de com, au final, j'arrive à utiliser le fait que je suis drôle parce que je fais parfois des contenus qui sont rigolos et j'aimerais bien, moi, arriver à un stade où on m'appelle pour écrire des blagues, que ce soit du scénario, du copywriting, de la com ou monter sur scène ou aider des gens à écrire des blagues pour monter sur scène. C'est vraiment mon goal, okay. Mon ultimate goal.
Cool.
Et être super riche, bien sûr, pardon. Voilà.
Et toi, Oriane, ça a quelle place?
Waouh, moi j'ai l'impression que je vais dire un truc tellement con, parce que je suis pas du tout le genre de meuf qui cherche ce genre de truc, mais pour moi ça fait partie de ma vie tout en ne faisant pas partie de ma vie, dans le sens où moi je suis quelqu'un qui a quand même aussi beaucoup de problèmes de confiance en soi et tout ça, et je suis très anxieuse aussi, je réfléchis beaucoup, et puis là c'est ça, comme je dis, j'ai terminé mes études, je suis diplômée, c'est-à-dire que je suis actuellement en recherche d'emploi, et oui, évidemment, moi j'ai envie que le stand-up fasse partie intégrante de ma vie, et d'un autre côté j'essaye d'être aussi un minimum réaliste et de me rendre compte que là ici en septembre, ouais non, je vais devoir me trouver un taf pour pouvoir continuer à faire du stand-up aussi à côté. Mais je pense pas être ce genre d'humoriste qui... C'est pour ça que ça m'a fait bizarre au tout début quand tu disais que j'étais une grande bosseuse. Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas une grande bosseuse. Que ça, j'ai pas l'impression d'écrire énormément. J'ai pas l'impression de bosser assez, en tout cas pour le stand-up. Et pourtant, ça fait partie de ma vie de fou, quoi. Parce que je joue, parce que j'adore ça, parce que j'ai des projets et tout ça. Donc je pense que ça fait partie de ma vie... Mais d'un côté, j'essaye de pas trop me mettre la pression par rapport à ça. J'essaye vraiment de vivre le truc comme ça vient, de me donner les chances, évidemment, de me donner les moyens. Et je dois dire que c'est vrai que ça me fait un petit peu chier aussi les podcasts d'humour quand les gens disent « Non, mais il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. » Ouais, il faut bosser, en effet, comme dans tout, il faut bosser. Alors en effet, peut-être qu'un jour je percerai jamais parce que justement j'ai pas assez bossé, mais je suis quelqu'un qui n'a pas envie de me détruire la santé mentale avec ça, quoi. J'essaye d'être assez positive par rapport à ça et tout ça, et on verra bien ce qui se passe. Et je dis ça, et là il y a d'office Adèle, si tu m'entends, oh mon Dieu, et plein d'humoristes qui m'entendent, qui vont se dire mais t'arriveras jamais à rien, Reine, si tu penses comme ça. Ouais, et d'un autre côté, c'est ce que je pensais déjà à l'époque, il y a 3 ans. Et toi, j'ai déjà cette mentalité en moi, et pourtant les gens sont bien, waouh, c'est bien, tu progresses vraiment de fou, alors que j'ai pas cette mentalité de bosser, work hard, tous les jours je bosse, tous les jours 8h du matin je me lève, j'écris et tout ça. Non, j'ai pas du tout moi cette mentalité, j'ai pas du tout ce processus. Et pourtant, les gens me disent que j'ai une belle progression et que j'avance bien là où je dois aller. Donc au final, j'ai l'impression que moi, ma méthode de travail fonctionne bien, et ma façon de voir le stand-up et ma carrière, entre guillemets, en tout cas fonctionne bien. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne bien. Donc j'ai pas envie de donner des conseils ou quoi par rapport à comment débuter le stand-up ou quoi, parce que je pense que c'est tellement personnel aussi, mais vraiment ça fait partie de ma vie tout en étant quand même quelque chose à côté, et c'est une passion et tout ça, mais oui, en effet, ça fait partie de ma vie.
Okay. Mais tu sais que ça soit pas la plus grande partie, quoi.
Non, parce que je peux pas, en fait, je n'y arrive pas, même si je pense que même si je voudrais, parce que c'est ça, je suis tellement quelqu'un qui n'arrive pas à me concentrer sur une seule chose, je pense que je n'y arriverai pas de toute façon.
Non, c'est ça qui est cool, je trouve, avec l'humour de manière générale, c'est que tu peux avoir 12 000 projets différents en même temps. C'est pas que monter sur scène et faire du stand-up, genre tu peux faire un podcast.
Ça peut
être plein de trucs, mais oui, moi c'est. Je pense que ça me ferait chier aussi si je me retrouvais à juste monter sur scène, genre ça me fait rire de faire des vidéos, ça me fait rire de créer des trucs, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment c'est un peu compliqué de me dire. En fait, j'aime bien mon taf en ce moment, je l'aimais pas trop avant parce que c'était trop stressant. Maintenant, j'aime bien mon taf. Du coup, je peux pas difficilement dire « Ouais, je vais tout plaquer pour faire du stand-up » parce que ça me paye mon loyer, c'est quand même un gros confort, et même si j'en perds en heure de sommeil, je préfère être tranquille financièrement et pouvoir faire un peu plus ce que je veux au niveau du stand-up que courir après la thune à 24 à cause du fait que je me suis dit « Je vais faire que du stand-up ». Et tant pis si ça a 2 fois plus de temps que quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec le truc de la santé mentale, ça a pris en premier, et tu vas pas...
En fait, moi, ça me saoule un petit peu, et en plus, j'ai l'impression qu'on est bassif, qu'on voit que ça avec les réseaux sociaux et tout, et cette, ouais, espèce de vieille vidéo là de success story avec où t'as une petite musique philosophique derrière et t'as un vieux type, tu sais même pas qui c'est, il fait genre un TED Talk qui est là, vous savez, enfin évidemment c'est toujours aussi des Américains, ils sont là, you know what, when people try to bring you down, you know what, et c'était là, on m'a mis ta gueule, enfin en fait, parce que je pense que, après moi c'est ma façon aussi de voir les choses, c'est juste, arrêtons d'essayer de généraliser un truc, putain, vis ton truc de ta façon, il y a des gens qui ont percé, ils sont sortis de nulle part, ils ont percé en 2-2, Il y a des gens, ils ont bossé comme des tarés et ils sont sortis de nulle part aussi. Enfin, tu vois, je suis désolée, mais genre, par exemple, il y a des humoristes, Romain Frécinet, il a bossé de... Enfin, Guillermo Guise, comme ça on reste quelqu'un que je connais quand même un minimum personnellement. Là, maintenant, la plupart des gens, ils sont en mode, ouais, le type, il est sorti de nulle part, en mode, j'ai des potes qui sont là en mode, ouais, Guillermo Guise, il a fait un buzz comme ça. Ou Inès Reg avec sa vidéo de, je veux des paillettes dans elles sont mes moulures au plafond et genre de trucs. Enfin, ça m'énerve, en fait, quand les gens sont là en mode, ouais, là, Inès Reg, la Guillermo Guise, ils sortent de nulle part, ils sont pas du tout connus. Mais en fait, non, c'est pas parce que toi tu les connais pas que. Parce que, du coup, à nouveau aussi, la musique, c'est pas parce que tu connais pas tel groupe de musique qui peut pas être famous dans son truc. Moi, je suis pas du tout les groupes de musique polonais. Je suis certaine qu'il y a des putains de méga stars en Pologne, quoi, tu vois.
Il y a Slip Club.
Ouais, mais c'est incroyable le groupe, j'entends.
Mais non, c'est ce que je. Désolée pour les nids.
Mais ouais,
j'adore PLK, vraiment.
Mais je pense que ouais, c'est juste ça, en fait. C'est juste que il y a des gens qui sortent de nulle part. Ouais, il y a des gens, et en fait, c'est juste que tu connais pas l'historique. Et c'est tellement humain. C'est tellement l'homme de venir cracher sur quelqu'un qui réussit. Parce qu'en fait, cette personne-là n'a pas réussi comme il voulait ou quoi que ce soit. Et en fait, ouais, c'est juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et cette réponse était très chaotique.
Oui, mais pour les faire inverse, ça m'a fait rire. Parce que récemment, on m'a contacté pour un projet où je vais jouer mon propre rôle. Mais c'est un bête truc, un peu corpo, machin. Et on m'a dit, ah ouais, c'est pour faire genre que telle personne se lance dans le stand-up en mode prank. Et du coup, on s'est dit, on va demander à quelqu'un qui se lance aussi dans le stand-up. Et j'étais là, je suis contente d'être rémunérée pour un truc. Mais je me lance plus, en fait. Genre, normalement, je suis dedans. C'est pas parce que j'ai pas un spectacle que je me... Enfin, j'étais un peu vexée. Mais du coup, ça rejoint le truc. C'est soit tu te lances, soit t'as percé. Il y a pas d'entre-deux pour les gens dans le stand-up. Genre, soit tu fais des plateaux et t'es mal payé, soit... Ce qui est vrai, en fait. Une fois que t'as percé, tu gagnes bien ta vie avec le stand-up. Genre, si tu remplis des salles de 400 personnes, bah, c'est cool. Genre, tu fais 4 représentations par soir, tu gagnes 200€ chaque soir. Bon, en fait, à la fin du mois, tu te fais des couilles en or. C'est incroyable. Mais avant, tu racles les fonds pour essayer d'avoir de prix de la thune, quoi. Genre, c'est vraiment ça. T'as vraiment l'entre-deux. Mais c'est rigolo, oui.
Mais l'entre-deux qu'on connaît moins, enfin, sauf les gens qui sont habitués à voir des scènes de stand-up et tout ça. Mais oui, il y a un entre-deux qui est des fois long, des fois moins long. Chacun a sa façon de faire. Il y en a qui bossent de ouf, il y en a qui bossent moins, il y en a qui bossent beaucoup sur scène, il y en a qui bossent beaucoup après. Enfin, chacun a sa façon de faire. Moi, c'est un truc que j'adore avec le stand-up. C'est quand tu vas voir un plateau, c'est 6 personnes différentes qui parlent de choses différentes avec leur point de vue différent et qui pourraient même avoir le même sujet. Hein. Ça pourrait être le même sujet, mais tu aurais 6 façons de voir et j'adore ce truc. Des fois, de façon nulle, mais des fois, même dans leur truc nul, il y a des trucs sympas qui vous pourraient retravailler ou un angle, un truc. J'adore le. J'aime bien le stand-up, je crois.
J'ai l'impression que t'aimes bien aussi, ouais. Moi, c'est peut-être une obsession que tu as, non ?
Ouais, peut-être, ouais, un petit peu.
Un tout petit peu.
Si vous avez un point à améliorer en particulier dans votre stand-up, ça serait lequel ? Ça peut être l'écriture, la gestion de la scène, la salle, l'après-scène, tout ce qui englobe le métier. Sur quoi vous dites à ce point-là, c'est vraiment le point que je dois améliorer en particulier ?
Pour ma part, je pense que c'est me faire confiance dans l'écriture et pas me faire confiance dans l'écriture de « ok, cette vanne, elle est drôle », mais juste me faire confiance dans l'écriture de me dire « ok, Aurélien, maintenant, tu peux te mettre derrière ton ordinateur et tu vas pouvoir trouver des idées sympas. Ouais, juste ça. Juste parfois me donner l'idée que ouais, je peux écrire quelque chose. Ça, il faut que je le travaille vraiment, quoi.
Ok.
Moi, la gestion de mes émotions sur scène, je crois.
Ok.
Enfin, c'est lié au delivery, mais je sais très bien que dès que ça arrive moins souvent, et je suis très contente, mais c'est ce qui s'est passé avec le 30, c'est que j'ai mal géré mes émotions sur scène et du coup les moments où normalement j'ai réussi, parce que mon gros problème au tout début, et je pense que ça s'entend un peu, c'est que je parle très vite et mon gros problème au tout début, c'est que je vomissais mon texte, genre j'étais là et je bafouillais, j'avais des problèmes de diction. Maintenant, ça c'est aussi parce que je me force à, dans mon perso, parler très lentement, mais ça revient en fait dès que j'ai un stress qui est pas prévu, où je me dis ah mince, ça va pas, et du coup quand même, je trouve que quand tu parles de sujets un peu durs, il y a cette très fine limite entre, et encore plus quand t'es une meuf, parce que j'ai vu aussi une Lisa Delmoitié vivre ça ou des trucs comme ça, il y a la très fine limite de j'ai envie de rire avec toi ou j'ai pitié de toi. Et ça, en fait, dès que tu laisses trop ton stress passer ou que les gens sentent qu'en vérité t'as pas confiance en toi, faut faire genre en stand-up quoi, que t'as confiance en toi. Et dès que les gens le sentent un tout petit peu, tu sais, un rire peut très vite devenir un oh.
Oui.
Et c'est chiant à mourir quand t'es là. Ah, mais vraiment, t'en reviens à ce truc de si j'en parle, c'est que je vais bien. Genre, ou en tout cas, vis-à-vis de ça, je vais bien. Mais ouais. Okay.
Moi, le truc sur lequel je dois travailler pour le moment, c'est arriver à me dire, il y a des gens qui sont là qui n'aiment pas, et c'est pas grave.
Ouais.
Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce qu'avant, je disais le truc sur lequel je devais travailler, c'était gérer mon public, genre quand les gens réagissent ou quand ils parlent, des trucs ainsi. Oui, mais un truc qui arrive avant, c'est même quand la scène se passe super bien, je vois une personne dans la salle qui rit pas, et je me focus beaucoup trop sur cette personne. Parce que j'ai ce truc de, mais pourquoi tu ris pas ? C'est drôle là. Pourquoi ? J'ai envie de savoir pour qu'est-ce qu'il a fait parier, et en même temps, je suis au courant du fait que c'est subjectif, il y a des trucs qu'on aime bien. J'ai déjà été voir des spectacles où l'entièreté de la salle rit et moi pas. Et c'est pas pour autant que la personne n'est pas bonne sur scène, c'est juste qu'elle m'a pas touché, ça vient pas me chercher, mais c'est normal. Et il faut que j'arrive à me détacher de ça, mais à chaque fois, j'ai ce truc de si j'en repère un qui rit pas du tout, je me concentre plus sur lui qui rit pas que sur les 50 autres qui rient. Et c'est pas normal, je devrais me concentrer clairement sur les 50 autres. Je sais, tu vois, c'est un truc que tu sais, mais que tu fais quand même. Et des fois, t'as des gens qui réagissent pas, mais en fait, ils aiment bien. Et j'ai eu le coup à Namur, il y avait deux personnes qui riaient pas du tout. Et je me suis dit, je leur fais passer une mauvaise soirée. Et je suis vraiment allé les voir à la pause en leur disant, je suis désolé si j'ai dit quelque chose qui vous a pas plu ou quoi. Ils disent, non, on a adoré. Je dis, mais riez alors.
J'ai eu un truc aussi à un moment où il y avait un gars, allez, je faisais des blagues, il était au premier rang au Kings. Et en fait, il faisait non de la tête tout le temps.
Okay.
Mais il rigolait pas, et je me suis dit, merde. En plus, je parlais d'un truc, je sais plus de quoi je parlais, mais d'un truc un peu dur aussi, une nouvelle fois, pour pas changer. Mais du coup, j'ai fait non la date, et à la fin, je me dis, merde, j'ai peut-être fait des conneries. De toute façon, j'ai dit des choses, et je l'ai heurté, et machin, et c'est pas cool, et je vais le voir à la fin, et je lui dis, et du coup, ça va, parce que je t'ai vu faire non de la tête, et ça m'a déstabilisé un peu, je me suis demandé si j'avais dit des trucs qui allaient pas. Et en fait, je lui dis, oh, mais non, moi, c'est juste les humoristes, à chaque fois, vous dites des trucs où je me dis, mais non, mais c'est pas possible qu'ils viennent de dire ça. Genre, j'étais vraiment fait gaffe quand vous vous mettez au premier rang, quoi, parce que vous pouvez déstabiliser quelqu'un juste parce que vous avez une expression faciale qui va pas, quoi.
Mais je crois que c'est surtout à l'humoriste de se déconnecter de ça.
Oui. Ouais, de fou.
Je fais mon taf et tant pis, ça vous fait rire, ça vous fait rire, ça vous fait pas rire, bah tant pis, ça vous fait pas rire. C'est pas obligatoirement lié à toi et à ta personne, mais c'est le truc sur lequel, à chaque scène, quand je rentre chez moi et que je parle à ma copine de la scène, je lui dis, mais il y a cette personne, troisième rang, la femme, elle me regardait, elle ne riait pas, elle a soufflé deux fois, à la troisième blague, elle a fait un... Et j'étais, mais pourquoi tu souffles à ce moment-là? C'est une bonne blague. Qu'est-ce qui... Et je dois pas me concentrer sur cette femme, je la reverrai jamais de ma vie. Et concentre-toi sur tous les autres qui rient, mais c'est le truc sur lequel je travaille pour le moment. Je fais ma thérapie en même temps, c'est génial. Et vous êtes tous les deux actifs sur les réseaux sociaux, je trouve. Vous êtes même assez doués là-dedans, je trouve personnellement, parce que je trouve que vous êtes bien meilleur que moi là-dessus. On revient sur la jalousie. Vous postez des réels, des moments d'impro sur scène. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire ou vous le faites parce qu'il faut le faire?
Donc moi, c'est très contradictoire. D'un côté, j'adore, et d'un côté, je déteste le fait qu'il faille le faire. En fait, j'adore poster, j'adore... après, moi, je suis aussi... je fais très attention à toujours mettre bien des sous-titres et tout ça, parce que, étant donné que j'ai étudié la langue des signes, et donc je suis un minimum au courant et un minimum concernée par tout ce qui est communauté et culture sourde, moi, c'est quelque chose où ça me tient à cœur de mettre des sous-titres. Donc, j'aime beaucoup faire du montage, j'aime beaucoup faire des sous-titres et faire vraiment que la vidéo soit quali, que la vidéo soit drôle et soit aussi accessible à tous. Après, je déteste de voir les poster. Là, ici, tu dis que je suis active. Le dernier réel que j'ai posté, c'était mi-juin, je pense. Et encore... Ça fait quasi 2 mois là que j'ai plus rien posté sur les réseaux parce que et pourtant toutes mes vidéos sont montées. Hein. J'ai un album dans mon disque dur, toutes les vidéos sont montées, sous-titrées, découpées, tout est fait. Et en fait, c'est juste vraiment ce truc de devoir me dire, ah ouais, attends, il faut que je l'upload, il faut que je mette une légende, il faut que je mette des hashtags, il faut que je la publie. C'est un enfer, quoi. C'est un enfer parce que et aussi d'un autre côté après, en fait, une fois que tu publies le truc. T'as un peu ce truc parfois de... ben en fait, tu le publies et puis en fait, pendant 30 minutes, t'as zéro notification, t'as zéro like et en fait, t'es là, ben en fait, c'est de la merde du coup ce que je viens de publier. Et donc en fait, ça me fait chier, alors qu'en fait de base la vidéo je l'aimais bien et je sais que la vidéo elle est bien, tu vois. Donc ouais, il y a un peu ce truc de, d'un côté j'adore travailler, j'adore faire du montage parce que j'adore faire des montages éclatés au sol, vraiment le truc le plus basique au monde et avec des sous-titres les plus pétés au monde, mais vraiment j'adore faire du montage, j'adore publier, mais je déteste devoir le faire, quoi. Et je déteste aussi ce truc où il y a beaucoup d'humoristes là aussi, où c'est très commun là maintenant, c'est les réseaux sociaux sont hyper importants pour le métier d'artiste. Et en effet, je vois bien, j'ai un réel qui a pété, j'ai un réel qui a fait plusieurs milliers de vues. Au début, j'avais pas compris, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va voir les likes et les... je regarde les notifications, mais je vais pas regarder vraiment le nombre de likes, je vais pas voir le nombre de vues. Et en fait, pendant une semaine, à un moment, tous les jours, j'ai des abonnements random, alors que je n'avais rien publié, j'avais pas fait de scène particulièrement. Et tous les jours, j'ai 4, 5, 6 personnes qui s'abonnent, quoi. Et je me dis, mais c'est trop bizarre, quoi. Pourquoi ? Et en fait, à un moment, je vais voir dans mes réels, et en fait, je vois que j'ai un réel qui a fait 10 000 vues. Et puis je me dis, oh waouh, quoi, trop bien. Et puis le lendemain, je reviens et je vois qu'il a fait 18 000 vues. Et puis je reviens le lendemain et puis je vois qu'il a fait 20 000 vues. Et là maintenant, il est, je pense, à 60 000 vues, quoi. Et c'est un truc où je me dis, oh putain. Et là aussi, je me déteste de me dire, oh, putain, je fais 60 000 vues, je suis trop une bonne. Je me déteste, quoi. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Mais je sais que malheureusement, il y a un jour où peut-être quelqu'un va tomber sur mon profil et il va se dire, ouais, elle a autant d'abonnés. Ouais, attends, elle a des réels qui ont fait l'un, il a fait 60, l'autre, il a fait 30 000. Ah ouais, ok, trop intéressant. Et ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'être un vulgaire morceau de viande et j'ai déjà l'impression de l'être quand je marche dans la rue et donc ça me fait chier de l'être aussi, en fait, au niveau du stand-up sur les réseaux sociaux, quoi. Et c'est fatigant. Mais j'adore les réseaux sociaux. Je suis tout le temps. Je pourrais pas dire que j'aime pas les réseaux sociaux. J'adore Instagram. J'adore publier. J'adore. Et puis j'adore aussi les likes et les commentaires quand les gens trouvent ça marrant. Évidemment, c'est un régal. Mais je déteste cette espèce de il faut, quoi. Ouais. Je déteste.
Mais je comprends ce truc parce que souvent les podcasts, je les enregistre et je suis trop content d'avoir enregistré un podcast parce que j'ai parlé avec des gens, je parlais d'humour, c'est mon kiff. Et après, je le poste et je vois qu'il est pas beaucoup vu. Et je sais, mais enfin. Mais c'était cool. Et du coup, je commence à moins l'aimer. Et je suis là, mais c'est le même. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste l'algorithme de YouTube, l'algorithme de trucs, des réseaux sociaux, de à tel moment tu l'as partagé, qui l'a vu. Et donc, ça fait effet boule de neige. Et des fois, l'effet de boule de neige, bah, il n'est pas là. Et ça ne devrait pas me donner un avis sur un podcast. Des podcasts que j'adore juste parce qu'ils sont beaucoup écoutés. Et ça ne devrait pas changer ça. Mais dans les faits, je regarde les stats très très souvent. Trop souvent.
Pour moi, les réseaux sociaux, bah déjà. Moi j'aime bien, parce que de un, c'est mon taf.
Mais tu fais ça bien en plus. De ouf.
Bah en fait, moi j'ai quand même, entre guillemets, j'ai beaucoup d'avantages parce que au niveau de la com, bah non, c'est ce que j'ai étudié, c'est ce pourquoi je taffe aujourd'hui, c'est avec ça que je gagne ma thune. Et le truc que j'aime bien avec mes chaînes à moi, chaînes pour dire les channels, parce que je parle à des initiés, c'est que c'est devenu un peu mon terrain de jeu. En fait, c'est un peu un truc où moi je force le truc de il y a un nouveau format qu'il faut pouvoir exploiter sur les réseaux sociaux. Moi, je le vois plus comme une contrainte de créativité. Et j'aime vraiment pas. À un moment, je me mettais beaucoup beaucoup de pression avant que je commence le stand-up, heureusement, sur ce que je postais sur les réseaux sociaux. Et je me disais, il faut vraiment que ce soit quali, il faut vraiment que ce soit super cadré, machin. Et puis j'ai eu toute une phase où je me dis, vas-y, tous les jours je shitpost. Tous les jours je poste que des trucs aussi. C'est à partir du moment où j'ai arrêté d'être journaliste aussi, où je voulais pas que ma personnalité transparaisse trop parce que l'objectivité, tout ça, machin. Et en fait, j'ai commencé à faire de la création sur internet et du podcast et je me suis dit, bon, les gens ils me suivent parce qu'ils aiment bien ce que je raconte, donc je vais juste shitposter et faire que des trucs à la con. Et ça avait pas forcément du succès et tout. Enfin, je voyais bien ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Je suis très détachée aussi des chiffres, heureusement maintenant. Parce que peut-être j'ai aussi ce truc de tous les jours pour un truc de taf, il faut que j'ai des bons chiffres, que j'ai des bons trucs, machin. Du coup, quand on en vient à mes réseaux sociaux, j'ai envie d'avoir ce lâcher prise. Juste, je poste que des trucs dont je suis contente. Tant pis si ça fait un flop, mais en fait, je me rends compte que au plus j'ai ce lâcher prise, au mieux ça fonctionne. En fait, c'est ce que je dis souvent parce que ça m'arrive d'avoir fait du coaching com avec des humoristes. C'est de base ce que tu vends, c'est toi. Enfin, on se considère comme un produit quand on est sur les réseaux sociaux, mais c'est toi que tu vends. Donc, a priori, les gens, si t'as envie de te construire une audience sur les réseaux sociaux, tu dois pas commencer à construire l'audience de quelqu'un d'autre. Les gens vont te suivre parce qu'ils t'aiment bien, pas parce que ton montage est super bien fait, parce que ça peut aider. Mais de base, ils vont te suivre parce qu'ils t'aiment bien toi et ils vont rester parce qu'ils t'aiment bien toi. Ils vont pas rester parce que t'as fait un truc qui te ressemblait pas et que d'un coup ça a buzzé. Parce que derrière, et c'est la même chose avec le stand-up, il faut jamais dénaturer son humour parce que si tu commences à dénaturer ton humain, tu vas t'enfermer dans une case, et même si ça fonctionne, bah, tu vas pas aimer ce que tu vas faire, et c'est l'enfer. Et ça, c'est vraiment le pire truc que tu puisses faire. Et la com au-delà des chiffres, machin, bah oui, c'est bien de vendre. Moi, je sais que maintenant, j'adore mes réseaux sociaux parce que je me prends plus la tête et je pose sur TikTok. Parfois Twitter, parce que Twitter m'a saoulé. Mais moi, de base, Twitter, j'aimais bien parce que c'était plein de gens qui faisaient des blagues. Et puis, en fait, il y a énormément de trolls et c'est l'enfer. Et je me suis déjà pris des trucs, j'en avais marre. Et Insta, c'est vraiment mon réseau de prédiction. Le seul truc qui me fait trop chier, c'est Facebook. C'est un truc de boomer et ça me fatigue. Mais genre, je crée des events. Maintenant, j'ai un peu la grammaire du truc, quoi. Et je suis tout le temps en veille sur les réseaux sociaux parce que c'est mon taf. Mais ouais, moi, je vois vraiment comme un terrain de jeu et j'aime bien poster des petits extraits. C'est toujours un autre truc en plus quand ça fonctionne bien. Bien sûr, je vais pas me plaindre.
Autre point commun que vous avez, c'est que vous avez tous les deux rempli le rôle de MC. Oriane avec le What the Fun à la Porte Noire, Lola avec la Too Comedy Club dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que le rôle d'MC, c'est quelque chose que vous aimez faire et que vous avez envie de développer ou pas spécialement?
Ouais, moi c'était un truc après avoir fait plusieurs scènes, j'ai eu cette envie de faire l'expérience d'être MC. Je trouve que c'est complètement différent du coup d'être humoriste parce que le but n'est pas là de venir faire des propres blagues mais vraiment de mettre instaurer une ambiance chill, calme et tout. Moi c'est un truc où en fait j'ai voulu faire MC pour travailler justement sur ma sympathie du public, parce que donc si vous me connaissez ou si vous m'avez jamais vu, venez me voir et vous comprendrez mieux. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu ce truc parfois de où en fait les gens me trouvent peut-être un petit peu trop agressive, et donc le fait d'être MC permet en fait vraiment de m'ouvrir une autre facette au public, enfin de leur montrer une autre facette de moi-même au public. Et je trouve ça très intéressant. Et en fait, là ici, ce qui est vraiment très chouette, c'est que donc avec le What the Fun, j'ai a priori, en tout cas là ici, de la saison qui vient de se terminer, j'ai eu deux scènes où j'étais MC. L'une où c'était vraiment plus à la Porte Noire, où c'était mon public. Voilà, je devais vraiment être gentille avec eux et tout ça. Et puis j'avais les soirées d'humour noir au Réservoir, où là j'étais MC et où là clairement j'avais carte blanche pour défoncer et insulter et clasher des gens du public, mais qui adoraient. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est aussi du coup trop chouette de vraiment pouvoir me rendre compte que, en fait, dans certains endroits, je montrais plus ces côtés-là de ma personnalité, et dans un autre, montrais plus ce côté-là. Mais je trouve que le rôle de MC est très chouette et très intéressant, et c'est vraiment une très chouette expérience.
Moi, j'aime beaucoup aussi. Moi, j'ai eu besoin de le faire. La première fois que j'ai fait, c'était très chaotique et très nul, mais j'avais essayé de tout écrire. En fait, j'étais une teubée. Hein. Quand t'es MC, il faut pas que tu commences à écrire tout. Et aussi, j'avais pas beaucoup de stock de vannes. Mais c'était très chaotique, et je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Et puis d'un coup, je me suis dit, en fait, j'ai envie de le refaire. Sauf que là, j'avais un bon stock de vannes et j'avais vraiment le besoin de péter un coup quand j'étais sur scène, quoi. Genre d'arrêter de me prendre trop la tête et de vraiment m'amuser sans réfléchir à ce que je vais dire à la seconde près, machin. Et en fait, c'est ça qui m'a... Le côté d'être MC m'a permis de trouver qui j'étais vraiment sur scène et comment être entre le naturel et l'écrit. Parce que... Et puis j'aime trop le fait que quand t'es MC, t'es super attentif à ce que les autres. Tu fais en sorte... Moi, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est que je me dis, ah là, je peux raccrocher, là, je pense à une vanne que je peux faire sur ce qu'il vient de dire et machin et truc. Ça permet de faire des bons retours après scène, si tu fais vraiment ça et que t'es vraiment attentif. Et de deux, en fait, de tester des blagues en ayant l'air de rien. Et de toute façon, quand t'es MC, t'es pas là pour être drôle, t'es là pour faire en sorte que tout le monde soit content. Plus ou moins, et j'aime vraiment bien être MC aussi, mais ça peut bouffer beaucoup de temps. Là. J'essaie de moins le faire pour justement me reconcentrer, parce qu'il y a un moment où pendant tout un mois, en fait, j'ai fait que MC pendant tout le mois, parce qu'il y avait des scènes à gauche, à droite, et voilà. Mais j'aime vraiment bien.
Ouais, c'est cool. Mais moi, c'est un rôle que je n'ai encore jamais rempli, et j'aimerais bien tester une fois pour, comme toi, savoir péter un coup, parce que moi, je suis très sur mon texte, et me prouver que je suis capable de le faire, en fait. Je sais pas si c'est un truc que j'ai envie de faire tout le temps, mais de me prouver, je peux faire ça si je veux. Et si j'aime bien, je continue. Si j'aime pas, je le fais pas. Mais au moins, ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Et que du coup, quand je suis sur scène, s'il y a une interaction avec le public, je vais pas mourir. Clairement, on va pas mourir. Mais ce que je veux dire, c'est je peux oser le faire et me surprendre à, putain, en fait, je peux improviser sur ça et trouver d'autres trucs. Que là, pour le moment, je fais, ah merde. Je me dis, ah merde, je vais devoir interagir. Et il faut que je casse ce truc de, ah merde, je vais devoir interagir. Enfin voilà. Je continue ma thérapie. Qu'est-ce que vous aimez toutes les deux le plus et le moins dans le fait de faire de l'humour?
Waouh.
Waouh. Ce que j'aime le moins, c'est que je sors tout le temps mon téléphone en soirée avec des potes en disant « Attends, ça, il faut que je note » et machin. Et ça fait quand même des grosses ruptures dans une conversation par un moment. Okay. Je suis même où le fait de penser qu'à ça. Même si c'est cool, mais ça fait chier par moment de... chaque fois, tu dis « Tout est sujet à prémisse. Tout, il faut absolument que je note parce que comme ça m'économise du travail de devoir trouver des idées. Okay. » Juste, je suis en conversation avec des potes et je commence à sortir mon tel pour prendre des notes. Ça me saoule, je pense. Ce que j'aime le plus, bah, les gens... En vrai, c'est con à dire, mais j'ai mis beaucoup de temps, je pense, dans la vie d'adulte, encore plus, à trouver un cercle de gens avec qui tu peux avoir des longues conversations. Ça, je me rappelle, je pense que j'étais extrêmement bourrée à une soirée avec d'autres gens que des gens du stand-up. Et je disais à un pote qui fait de la musique ou un truc comme ça, j'étais « Non, mais c'est trop bien, tu trouves des gens, tu peux parler pendant des heures du sujet et puis après... » Ils sont autant intéressés que toi et c'est trop cool. Tu peux faire la stand-up nerd ou après aussi les gens qui font du stand-up en général, c'est des gens qui se posent beaucoup trop de questions, c'est des gens qui ont des problèmes personnels et qui ont une intelligence assez particulière, en tout cas les gens dont j'aime l'humour. Mais c'est trop cool de discuter. Même quand tu te connais pas si bien, en fait, t'as vite des points d'accroche sur lesquels en fait tu discutes et tu sens qu'il y a une bienveillance qui est très cool en fait, je trouve, dans ce milieu et d'avoir trouvé un peu ton milieu et ta team et des gens où même en fait des soirs où je joue pas j'ai envie d'aller voir une scène parce que je me dis que j'ai peut-être croisé des gens que j'aime bien et bah en fait ça fait plaisir parce que de base je suis vraiment pas du tout une meuf extravertie et je suis pas du tout de ce genre de personne, j'avais juste pas rencontré les bonnes personnes.
Moi c'est très marrant parce que moi ce que j'aime le moins c'est tout ce que tu viens de dire. Moi ce que j'aime le moins dans le stand-up, et je pense que ça a un petit peu un rapport avec ce que j'ai dit aussi par rapport aux réseaux sociaux et par rapport aussi à la place qu'occupe le stand-up dans ma vie, c'est que j'adore le stand-up, of course, sinon j'en ferais pas, mais yo, qu'est-ce que je déteste les gens qui sont trop stand-up, quoi. Je déteste ça. Je supporte pas. Je suis désolée
pour
tout ce...
Du coup, tu me détestes.
Non, mais je déteste...
Comment les... manière de le dire, quand même. Ouais, j'aurais préféré un peu plus honnêteté dès le début.
C'est après 2 heures de podcast. Régis, je te déteste.
Vous êtes nul. Non, mais c'est vrai que j'ai vraiment... je déteste ces moments où je suis avec des gens et qu'on n'est pas du tout dans un truc stand-up et qu'en fait, ça ne parle que de stand-up ou quoi. J'ai déjà passé des soirées avec un pote humoriste où on a juste envie de rigoler et il va mettre le spectacle de Guillermo Guise et il va commencer à se taper des verres et à analyser toutes les vannes. Ah putain, ouais, t'as vu là, il a fait ça et tout. Pète un coup en fait, pète un coup. Genre regarder du stand-up avec un humoriste, c'est un enfer quoi. Et en fait, moi je déteste ça, c'est sortir de scène et commencer à parler de ouais, mais ça a pas bien fonctionné, ouais, mais je pense que je devrais plus faire ça. Putain, chillez-vous quoi, chillez-vous, levez le pied, c'est bon, on sait que vous bossez, on sait. Et en fait, moi, je déteste ça, je déteste ces gens qui ne pensent qu'à ça, qui ne font que ça, qui ne vivent leur vie que pour ça ou quoi, ça m'insupporte. Sinon, ce que j'aime le plus dans le stand-up, je pense que c'est tout simplement le naturel du truc, quoi. Tu vois, le truc de tu viens, tu fais des blagues, les gens rigolent, tu viens, tu fais des blagues, les gens rigolent pas, c'est la même chose, enfin, tu vois, c'est... C'est très naturel et c'est très... c'est de ton ressort et d'un autre côté, c'est pas du tout de ton ressort. Et d'un autre côté, c'est toi qui peux travailler. Et d'un autre côté, il y a des trucs où t'as rien à travailler parce que c'est juste nul ce que t'as fait. Enfin, tu vois, c'est tout des trucs où... Moi, c'est ça que j'adore dans le stand-up, en fait. C'est pouvoir me dire qu'il y a un moment où je vais monter sur une scène. Hier, par exemple, j'ai joué à 20h et à 22h30. Eh ben, je trouve ça trop bien de pouvoir me dire, ben, j'ai joué à 20h. J'ai adoré mon passage sur scène, mais j'ai pas du tout aimé la façon dont j'étais sur scène parce que... J'étais pas à l'aise avec mon corps, mais j'étais très à l'aise avec mes paroles. Et à l'inverse, la deuxième fois, j'étais beaucoup plus à l'aise avec mon corps, mais mes paroles, je bégayais beaucoup plus, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est vraiment ce truc de j'adore qu'une scène n'est jamais une autre. Et of course, j'adore de faire rire les gens, et c'est hyper gratifiant. Peut-être parce que j'ai pas eu tout l'amour que j'avais envie de mes parents quand j'étais plus jeune, mais c'est trop un bonheur de. T'es en fin de scène, ouais. T'es en fin de scène et il y a des gens qui viennent à la fin et qui disent j'ai adoré ce que c'est. Mais après, je déteste quand les gens me disent j'adore ce que tu fais et après ils s'abonnent pas. Allez, va te faire enculer.
Mais c'est vrai, les réseaux sociaux, ça te saoule et tu trouves.
Ouais, mais tu vois, mais c'est pour ça que je dis je suis la contradiction. Je me déteste et en même temps, je m'adore. Je trouve que je suis quelqu'un d'incroyable et d'un autre côté, je me déteste. Voilà. Je suis vraiment un paradoxe. Je suis un paradoxe vivant, mais ouais.
Oh là là.
Mais j'adore le stand-up.
On va faire une petite pause dans le podcast pour faire un câlin à Oriane.
Merci. Tu aimes le contact physique ou tu détestes?
Pas trop. J'aime pas trop, me touche pas trop, s'il te plaît. Ouais, tout ce qui est câlin et tout ça.
Qu'est-ce que on peut vous souhaiter toutes les deux pour la suite de votre carrière?
la dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai dit un max de thunes, mais non, je me souhaite de je sais pas, de continuer à avoir un équilibre et de pas hésiter à arrêter quand ça me fera chier. Ça, j'ai pas envie de continuer un truc. Je pense que c'était Morgane Cadillan qui avait parlé de ça aussi dans son Les gens qui doutent avec Fanny Ruey. Cordel. Je pense qu'il veut faire un compteur à fin. Mais je me suis beaucoup identifiée à ce qu'elle disait. C'est le jour où ça l'a fait chier, le stand-up, l'humour de manière générale, elle arrête. Et je trouve que par exemple Marina Rollman, qui a décidé d'arrêter l'humour pour plus se concentrer sur le fait de scénariser des choses, j'espère que c'est pas une connerie, mais il me semble qu'elle a annoncé ça il y a pas très longtemps, qu'elle arrêtait les spectacles.
Qu'elle en faisait moins, ça c'est ouais, sûr, mais je sais pas si elle arrête.
Mais en tout cas, j'avais l'impression qu'elle faisait une pause et pour se concentrer sur d'autres choses, okay. Toujours de l'écriture, mais plus du film, du scénario, des choses comme ça. En fait, j'ai beaucoup de respect, c'est comme arrêter une série avant qu'elle devienne moins bonne. Bah, en fait, surtout aujourd'hui, notre génération qui change de taf tous les 3 ans, et je suis bien placée pour le dire. Enfin, en fait, faut pas considérer que quoi que ce soit est une vocation et que tu dois faire ça toute ta vie. Si demain j'ai envie de faire des crêpes, je vais faire des crêpes. Et je peux même faire des blagues en faisant des crêpes et être la meuf qui fait des crêpes derrière un stand en faisant des petites blagues, genre, vous voudriez bien une petite beurre sucre, hein, mais vous êtes un peu beurré déjà. Et si ça se trouve, je serais cette personne.
Waouh!
Wow. Tu serais la personne que je détesterais le plus de tout le marché de Noël, sache-le le bien.
Je pense qu'il y a un fil rouge dans cette interview, c'est que tu me détestes.
Ouais, c'est fou, hein. C'est vrai que c'est fou.
Je détruis les amitiés.
Moi, pour ma part, que tout se passe bien et que je sois contente de ce que je fasse, que ce soit des trucs ouf ou pas incroyables, juste que je sois contente de ce que je fais.
Eh ben, je vais clôturer l'interview avec l'interview name dropping. Donc, j'ai oublié de vous rappeler en début d'épisode. Donc, j'espère que vous vous rappelez de ça.
J'ai oublié de dire une actu aussi. Mon agent m'avait demandé de dire. Mon agent m'a demandé de dire une actu. Est-ce que ça serait un truc? Je joue aussi. Je fais la première partie d'Alexis Le Rossignol à Liège le 30 septembre.
Okay.
Voilà. Tu m'as coupé.
C'est placé.
Voilà, c'est tout. J'ai un agent. Il s'appelle Damien Aresta. Il est très bien. Merci, Damien. Non, je vais pas te dire je t'aime parce que bref, je t'apprécie.
Waouh. Je te déteste.
Galérer en montage.
Tu peux laisser ça. Tu peux ne pas le couper. C'est ok.
Ça marche. Donc l'interview de name dropping, je vous demande à chaque fois pour chaque catégorie de me donner un humoriste, que ce soit un homme, une femme, un français, un québécois, un allemand, peu importe, mais à chaque fois c'est limité à une seule personne pour chaque catégorie. L'humoriste le plus sympa que vous avez rencontré.
J'espère que tu diras l'autre que j'ai en tête, Dena.
Moi je m'y attendais pas, mais Guise.
Okay.
Guise, très sympa.
L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus.
Je pense que Florence Foresti, quand j'étais jeune.
Ok. Est-ce qu'on va avoir un nouveau bip pour le compteur de Fanny Ruey ou ouais.
Non, c'est pas elle.
Dring, dring, c'est le jackpot là, quand ça fait 10 fois ça.
En vrai, ça m'étonne moi-même, mais ouais, John Mulaney aussi.
Ok. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux.
Je pense que ouais, c'est parce que j'ai regardé ces deux spectacles il y a pas longtemps, Daniel Sloss. Daniel Sloss, incroyable.
Bah, Sarah Silverman.
L'humoriste qui joue le mieux.
Moi, je pense que j'ai peut-être envie de dire Marina Rollman. Marina Rollman, je kiffe.
Il y en a un que j'ai vu il y a vraiment pas longtemps et je trouvais que son acting était super intéressant et c'était Adrien Motovski.
Un humoriste qui vous a surpris dernièrement, soit que vous connaissiez pas et qui vous a étonné tellement que c'était fort, ou quelqu'un que vous connaissiez mais qui est revenu plus fort ou qui est revenu avec quelque chose de nouveau et qui vous a dit waouh, il m'a surpris sur ce coup-là.
Ouais, moi je sais pas. Franchement, je sais pas. Vu que j'ai pas une façon d'analyser. Enfin, tu vois, je pense pas à analyser les gens et analyser leurs blagues et analyser de comment est-ce qu'ils étaient avant, de comment est-ce qu'ils sont maintenant ou quoi.
Okay.
Je m'en bats un peu les couilles, moi. Moi, je prends les choses comme elles viennent et si t'as été bon là, t'as été très bon.
Là, t'as quelqu'un en tête?
J'ai envie de tuer mes potes. Non, je pense qu'il était deux.
Non, mais c'est que dans la vie.
Non
mais, par rapport à la question.
Non, je veux faire de la triche juste pour faire plaisir à des potes.
Vas-y.
C'est Moana Genève et Marine Sergent, qui sont deux personnes avec qui je fais beaucoup de stand-up et que je vois grandir tous les jours et qui sont en train de devenir de plus en plus fortes. Elles m'ont vraiment surprise dans le bon sens du terme, aux 3x20 qu'on a fait ensemble. Voilà.
C'est pas mal.
Voilà. Et alors, aussi, un truc que je déteste dans le stand-up, c'est toute cette bienveillance comme ça entre les gens.
Mais je suis sincère, si c'était pas trop, je leur aurais dit.
Ah non, je sais, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte que vous vous aimez autant.
Voilà. Et maintenant, je vais vous demander de choisir entre deux humoristes. Vous devez me dire lequel des deux vous fait le plus rire sur scène. Ça peut être un tout petit peu plus, ça peut être un 0,1% plus, mais juste pour savoir un peu qu'est-ce qui vous touche plus en humour, vous. Ça veut pas dire que l'autre est nul, ça veut pas dire que vous aimez pas, ça veut juste dire que vous aimez un tout petit peu plus, qui va vous faire rire un petit peu plus, provoquer le rire. Premier choix, entre Sarah Silverman et Anna Gatsby.
Sarah Silverman.
Joker, je ne connais pas ces deux personnes, je suis désolée.
Il n'y a pas de souci. Je ne savais pas exactement ce que vous connaissiez avant de faire l'épisode, du coup.
Mais par contre, hier, j'ai joué avec. Enfin, j'ai rencontré Thomas Dezor. Et Thomas Dezor, qui a donc vu les premières parties, donc les 10 minutes que j'ai joué. Et il m'a conseillé de regarder Ada Gatsby. Parce que justement, apparemment, j'ai un peu un. Pas du tout dans les thèmes, mais dans la façon d'amener le spectacle et de la façon d'amener les thèmes qu'on veut apporter. Apparemment, c'est intéressant. Donc, il m'a conseillé vivement de m'intéresser à cet humoriste que je ne connais pas du tout, et Sarah Silverman non plus.
Mmh. Mais je te conseille les deux. C'est ouais. deux génies de l'humour. Sarah Silverman a fait ça depuis tellement longtemps. Je crois qu'elle a commencé quand elle avait genre 16 ans, même peut-être même avant, et elle a genre 50 ans maintenant. Donc,
elle a fait partie du SNL et tout. Ouais, c'était une des premières marques au SNL, je pense.
C'est une des meilleures au monde.
Ok, j'ai refermé de voir.
Ça peut être ta cam, je pense.
Ouais, je pense.
Entre Blanche Gardin et Marina Rollman.
Marina Rollman.
Entre Guillermo Guise et Alex Vizorek.
Guillermo Guise.
Entre Ino JP et Fanny Rue.
Ah, c'est difficile.
C'est très difficile ça.
Oh, gosh.
Moi je pense quand même Ino JP.
Je suis vraiment bug, c'est horrible. Ah, mon dieu.
Là, tu l'as sucé pendant tout le podcast, tu
vas
quand même pas
l'arrêter maintenant. Bah oui, je sais,
mais Ino. Finis là.
Fini.
Elle demande ça.
Allez, allez, Fanny.
Entre Thomas Wiesel et Baptiste Le Caplain.
Oh, c'est trop dur ça.
Non, Baptiste Le Caplain.
Thomas Wiesel.
Oh, cool, comme ça il y a les deux. Entre Adèle et Anthony Circus.
Adèle. Désolée, Anthony.
Ouais. C'est un peu... Plus d'expérience aussi,
oui,
du
quand
côté
même.
Adèle, hein.
Oui.
Et dernier choix, entre Marine Sergent et Moana.
Oh, c'est un fils de chien.
Moi, je peux répondre quand même.
Allez, vas-y.
Surtout pour Lola, sur le coup.
Ah, salaud.
Moi, en toute honnêteté, Marine. Marine Sergent, ouais.
Ah bah je vais dire Moana du coup parce que...
Oh, c'est horrible de dire ça. Ah, je vais dire Moana du coup.
Non mais... Moana du coup, oui.
Moi je n'ai jamais vu Marine Sergent sur scène. Et j'ai vu Moana une seule fois ici au Stand Up In Le Parc dans un contexte particulier. Donc j'ai pas encore un avis sur ce qu'elle fait.
Okay.
C'est pour ça qu'elles ne sont pas invitées au cas où elles les écouteraient jusqu'au bout. Et que pourquoi je suis pas invitée. J'essaie vraiment d'avoir des invités que j'ai vu ce qu'ils ont fait. Pour avoir un vrai avis et pas juste inviter des gens parce que ça peut être intéressant.
Ah non,
parce
t'inquiète.
Non, mais je le dis en général parce qu'on me conseille souvent des gens et je dis juste, désolé, je ne l'ai pas vu.
J'ai pas envie de faire un podcast avec cette personne si je sais rien de ce qu'elle a fait.
Voilà, quoi. C'est ça. Ou qu'on me conseille quelqu'un et j'aime pas ce qu'il fait malheureusement.
Ouais, c'est ça.
Je ne vais pas l'inviter non plus parce que je trouve ça.
On veut des noms.
Tu les auras en off. Et je finis toujours avec cette même question. Qui est-ce que vous voudriez entendre dans le prochain épisode? Partez dans tous les sens. Que ce soit en Belgique, en France, en Suisse, au Québec, au Cameroun.
Lou Trotignon.
Ok.
Incroyable. Mamari. Enfin, je vais dire tous les gens que j'ai rencontrés au Barbès. Mamari qui a fait un 30-30 avec Fanny là récemment. Et que j'aime d'amour, qui est je la présente souvent en disant si un sucre se métamorphosait en humaine et commençait à faire des blagues sur l'inceste et le viol, c'est Mamari. Je conseille à tout le monde Mamari, Lou Trotignon, qui est une personne incroyable aussi, très très drôle. Mao Drama, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je pense que ça doit être fou de l'avoir en podcast aussi. Elle fait un podcast qui s'appelle Histoire de merde où elle interviewe à chaque fois des gens qui sont chiés dessus à l'âge adulte. Et c'est très drôle. Donc je l'ai vu au Barbès, c'était très cool.
Mais sinon, c'est vrai que du coup, parce que je l'ai rencontré là ici hier, mais Thomas Dezor, il est hyper intéressant. Et en fait, il a vraiment un truc qui est personnellement, enfin, dans sa personne en tant que telle, qui est vraiment très chouette, quoi. Et c'est vrai que non, c'est une chouette personne. Et du coup, j'ai vu sur scène hier pendant 30 minutes. Et franchement, c'est très drôle et c'est très zinzin.
Okay.
C'est très délire. Mais j'aime beaucoup, en effet.
En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, parce qu'on a pris plus longtemps que prévu. Mais je trouvais ça assez cool. On a perdu Lola qui est
plus pour. Moi, je regardais des noms de gens dont j'ai envie de dire Natacha Gomez, c'est super intéressant ce qu'elle fait aussi. Enfin, bref.
Mais donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast, d'avoir pris le temps, d'avoir partagé un brunch avec moi, c'était vraiment cool.
Merci à toi pour l'invitation. Humoristique, moi j'adore.
Régis Canon, humoriste, vraiment le GOAT, l'homme le plus drôle du monde.
Non, non, vraiment non, pas. Non, pas, vraiment pas. Elle, j'ai l'impression qu'elle dit de la merde. Et voilà, et celle-là, et en même temps. Non, mais vraiment, merci beaucoup. Moi, c'est vrai que ça va être toujours plaisir d'être invité pour un podcast. Et tes questions sont hyper intéressantes, quoi. Donc. Bah non, mais c'est vrai.
Non, c'est parce que j'ai l'impression que j'étais l'enfant à côté de. Non, mais laissez-la.
Oui, mais c'est.
Moi, je vais être honnête avec toi. C'est bien ce que tu fais, mais tu devrais peut-être donner un peu plus de rythme, quoi. Genre, juste.
Ça marche. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Montage.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.